Avant de commencer, prions.
Bienveillant Père Céleste, tu as entendu le témoignage de ce pieux et saint vieillard. Au travers de ce siècle, lui et sa femme ont travaillé ensemble. Tu sais de quelle manière elle dut se cramponner à toi et te supplier de faire de son mari un prédicateur. Et le voilà. Et ensuite, alors qu'il était couché là, à la mort, les meilleurs docteurs du pays disant que c'était la fin, qu'il ne vivrait plus que quelques heures, car son corps était dévoré par le cancer, qu'il ne pourrait plus faire un pas, ayant de l'infection de les chevilles et à d'autres endroits. Et le voici, des années après, qui va toujours. Nous sommes si reconnaissants, Père. Cela prouve que lorsque la parole est plantée et ensuite arrosée, elle produit une récolte. Nous te prions maintenant, Père, de nous laisser parler cet après-midi de ta parole. C'est ta parole, et nous voulons l'exposer telle qu'elle est. Et ensuite, Seigneur, arrose-la de l'Esprit. Nous te demandons, tout en remettant à toi, avec le message, de nous utiliser au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, dépêchons-nous. Mon épouse me disait ce matin combien c'était pénible pour les gens, vous savez, car ils étaient saisis de crampes dans les jambes, spécialement les dames, mais les gens qui, comme moi, deviennent un peu âgés et qui doivent rester debout. J'apprécie votre fidélité. Maintenant, nous allons retourner directement au message et continuer. Je ne veux pas trop me dépêcher, et pourtant, je veux me dépêcher suffisamment pour essayer de finir cela cet après-midi, si c'est possible. Aussitôt que nous aurons fini, nous partirons pour Tifton, en Géorgie. Mais ce ne sera pas pour des réunions suivies là-bas. Nous serons à l'auditorium de l'école secondaire, pour une soirée seulement. Ce sera demain soir, ce ne sera qu'une réunion de prédication. J'aurai un petit texte ordinaire ou quelque chose que j'aurai déjà prêché ici, car je vais simplement rendre visite aux gens de là-bas. Ils n'ont pas de réunion régulière suivie. Arrêtez. Ce matin, nous avons commencé à parler de notre texte qui se trouve essentiellement dans la Genèse, au chapitre 1er et au verset 11. La parole parlée est la semence originelle. Mon but ce matin et aujourd'hui est d'essayer d'expliquer aux gens mes actions et la raison pour laquelle j'ai fait les choses que j'ai faites. Je réalise que ces bandes seront envoyées et que beaucoup de personnes les entendront probablement après mon départ d'ici, si Jésus tarde. Mais je désire dire que je crois la parole de Dieu et qu'elle est la vérité. Nous nous sommes arrêtés à ce qui arrivait au ministère dans les derniers jours. Considérons les évangélistes qui, il y a quelques années encore, embrasaient le pays et qui ont, semble-t-il, tous arrêté. Je ne dis pas qu'ils ne font plus rien, ils vont toujours, mais il semble qu'il n'y a pas de résultat. Ils n'aboutissent à rien, voyez-vous. Que se passe-t-il? Le champ a été ensemencé, voyez-vous. Maintenant, souvenez-vous, n'oubliez pas, quelqu'un m'a demandé de répéter ce mot hébreu dans Joël, chapitre 2, Joël 2, 28, où il est parlé de la venue de la première et de la dernière pluie. Le mot première est le mot hébreu M-O-U-R-E-H, mouré, ce qui veut dire enseignement. En d'autres termes, il y aura une pluie de l'enseignement et une pluie de la moisson. Maintenant, nous avons reçu la pluie de l'enseignement et nous sommes prêts pour la pluie de la moisson. Vous savez que la première pluie vient lorsque vous plantez la semence. Cela commence à la faire croître. Puis, juste avant qu'elle soit à maturité, il pleut de nouveau. C'est ce qu'on appelle la pluie de la moisson. Nous savons qu'il y a les pluies de printemps et qu'ensuite, il pleut aux environs de juin. C'est ce qui fait votre récolte. Nous avons découvert que la pluie était l'esprit. Nous en étions restés au point où j'avais exprimé ma pensée au sujet de ce que serait le tout. C'est-à-dire que je crois que la pluie a été répandue. C'est la raison pour laquelle nous sommes calmés, car le terrain a déjà été ensemencé. Vous pouvez difficilement trouver un endroit qui n'ait pas été ensemencé. Cela a été répandu par la radio, la télévision, les bandes, la parole et tout le reste. Le pays a été ensemencé. La semence y a été plantée. Maintenant, les semences qui ont été plantées Vous ne pouvez rien en retirer d'autre si ce n'est les semences qui ont été plantées. Maintenant, comprenez-vous? Ce sera les semences qui ont été plantées. L'esprit tombera, mais il produira une moisson de la semence sur laquelle il tombe. Souvenez-vous-en. Très bien. Je prédis que les deux groupes dénominationnels, c'est-à-dire les groupes pentecôtistes et évangéliques, travailleront ensemble dans une dénomination, s'uniront et deviendront tous membres de la Fédération du Conseil des Églises. Ils y appartiennent déjà tous. Et qu'il y aura par eux une contrainte ou un boycottage qui arrêtera tout ce qui n'appartient pas à cette union d'Églises. La Bible dit qu'il y aura un boycottage à tel point que les gens ne pourront ni acheter ni vendre s'ils n'ont pas reçu la marque de la bête. Ce qui est le romanisme et l'image de la bête, c'est-à-dire le protestantisme. La bête avait la puissance et l'autorité pour donner la vie à l'image, pour qu'elle puisse parler. Elle le fit. Et c'est la confédération des églises lorsqu'ils s'unissent. Il y a ici beaucoup de jeunes gens. Je ne sais pas, mais Jésus peut venir cet après-midi. Il peut venir l'année prochaine. Je ne sais pas quand il viendra. Mais souvenez-vous que si je ne vis pas pour voir le jour de sa venue, j'espère que je le verrai, et en un temps je crois que je le verrai. Mais si je ne le vois pas, ne laissez jamais cette parole quitter vos oreilles et votre cœur. Souvenez-vous que je parle au nom du Seigneur. Je crois que de tout mon cœur, que c'est ainsi que cela se terminera. Il y aura comme une union, un boycottage. Tous les endroits tels que celui-ci seront fermés. Vous ne pourrez pas parler à moins d'avoir une permission ou une licence de cette fédération d'église pour tenir une réunion. C'est presque, même maintenant, c'est ainsi dans les dénominations. Cela montre où nous en sommes. Oui, monsieur, vous devez la voir, et cela se terminera ainsi. C'est ma prédiction en tant que serviteur de Christ par la compréhension que j'ai de la parole et par l'inspiration. Cela arrivera de cette manière. Tous les signes pointent vers la fin. J'ai terminé de parler là-dessus. Même la Vierge folle a commencé à réclamer de l'huile. Souvenez-vous qu'elle était une Vierge. Et si elle est une Vierge, elle est une Église. Voyez-vous, nous verrons cela cet après-midi dans Apocalypse 17. Si elle est une Vierge, elle est une Église. Parce que l'Église est une Vierge. Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ comme une Vierge pure. La prostituée d'Apocalypse 17 était une Église. Jean l'admira à cause de sa beauté. Elle était belle, mais cependant, en elle fut trouvé le sang de tous les saints de Jésus-Christ qui avaient été massacrés. C'est vrai. Je crois que ce sont, d'après le martyrologe, 68 millions de personnes que l'Église catholique romaine a mises à mort depuis Saint-Augustin d'Hippo. 68 millions de protestants ont été tués et ont été mentionnés dans les annales du martyrologe par l'Église catholique, parce qu'ils n'avaient pas été d'accord avec sa doctrine. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise qu'en elle fut trouvé le sang de tous les martyrs. Jésus n'a-t-il pas dit que le temps viendrait où il vous tuerait pour ainsi rendre service à Dieu? Elles sont sincères à ce sujet. Ce ne sont pas des hypocrites. Ils croient cela. Ils sont enseignés ainsi. Lorsque cette parole est plantée là, elle doit donner une récolte, assurément. Souvenez-vous que nous restons avec la semence. C'est notre texte, notre semence. La parole parlée de Dieu est une semence. Voyez-vous? Cela doit revenir à cette parole et cette parole produira ce qu'elle déclare. C'est la raison pour laquelle je crois en la guérison divine. C'est la raison pour laquelle je crois aux visions. C'est la raison pour laquelle je crois aux anges. C'est la raison pour laquelle je crois en ce message. C'est parce qu'il vient de la parole de Dieu. Et tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu, je n'y crois pas. Cela pourrait être ainsi, mais cependant, je resterai simplement avec ce que Dieu a dit, et ainsi je serai sûr d'être dans le vrai. Dieu peut faire ce qu'il désire, il est Dieu, mais aussi longtemps que je reste avec sa parole, je sais que c'est en ordre. Je crois cela. Cette vierge folle est une femme. C'est une église, mais elle est folle, voyez-vous. Elle fut lente à venir. Pourtant, elle se considérait comme l'épouse. Souvenez-vous que tout va par trois dans la perfection. Trois est le nombre de la perfection. Les offices de Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu le Père était un Dieu qui vivait dans la colonne de feu. Il essaya d'attirer Israël à lui. Ils ne voulurent pas venir. Dieu le Père habita dans le Fils, ce qui fit de lui Dieu le Fils, le même Dieu. L'image exprimée de Dieu, la semence de Dieu manifestée, essayant d'attirer les gens à lui. Ils le crucifièrent. Le Saint-Esprit est le même Dieu qui était au commencement dans le Fils de Dieu et qui maintenant, dans les derniers jours, remplit l'autre Fils de Dieu en vivant de l'Église et en essayant d'apporter la parole parlée comme le firent les deux autres offices, aux gens et la rejettent. C'est la même chose. Ce sont les trois offices ou manifestations d'un même Dieu. Dieu agissant dans son peuple aujourd'hui est Dieu manifesté. Voyez-vous, c'est Dieu dans les gens. Dieu voulant, je désire parler de cela demain soir. Dieu dans son univers, Dieu dans son fils, Dieu dans son peuple, etc. J'ai déjà parlé là-dessus, ici, je crois. Ainsi, cette vierge folle, lorsqu'elle alla acheter de l'huile, on l'envoya acheter de l'huile. Lorsqu'elle le fit, elle découvrit qu'elle arrivait trop tard. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Les semences sont plantées. Il y en avait trois du temps de Sodome. Il y a toujours eu le nom trois. Il y a trois venus de Christ. Il vint une fois pour racheter son épouse. Il vient ensuite dans l'enlèvement pour prendre son épouse. Il vient dans le millénium avec son épouse. Tout va par trois. Trois est un nombre parfait. Cinq est le nombre de la grâce. 7, l'achèvement. 12, l'adoration. 24 ou 40, la tentation. Et 50 est le jubilé. Le mot Pentecôte signifie jubilé. 50, voyez-vous. Dieu, dans ses nombres, il est parfait dans ses nombres. Il est parfait dans sa parole, il est parfait dans son action, il est parfait en toutes choses parce qu'il est un Dieu parfait. Et nous voyons que ces vierges, maintenant regardez, il y a ce qui est appelé dans la Bible une prostituée. Je désire que vous me pardonniez, mes sœurs. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, je parle franchement. Elle l'appelle une prostituée, elle la mère des prostituées, ce qui est la même chose. Maintenant, si vous remarquez, il est parlé dans la Bible d'une prostituée. C'est une église. Il est aussi parlé d'une autre prostituée. C'est une église. Il est également parlé d'une épouse. Et c'est une église. Voilà les trois. Nous y viendrons dans un moment pour montrer de qui elles sont les épouses, comment elles ont été rejetées, et tout à ce sujet, si le Seigneur le veut. Maintenant, la première chose. Je veux dire ceci avant de l'oublier. N'ayez jamais peur du communisme. Le communisme ne fait que travailler dans la main de Dieu. C'est une affaire impie, pareil à ce qu'était le roi Nebuchadnezzar, mais il l'envoya là-bas pour frapper Israël à cause de leur désobéissance. Quand le prophète leur annonça ce qui allait arriver, les pressant de demeurer dans leur pays et de se souvenir de Dieu, ils ne le voulurent pas. Ils continuèrent néanmoins comme avant. Alors le roi sortit et les fit prisonniers, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Le communisme est une chose qui, la raison pour laquelle le communisme apparut, c'est à cause de l'illégitimité de l'Église catholique en Russie. Elle s'empara de tout l'argent et le garda précieusement pour elle. Tout était là. C'est ce qui déclencha le communisme. Lorsque ce petit garçon put ressusciter des morts, l'avant Finlande, de solides soldats communistes qui étaient là pour le salut alors que je passais, et l'âme coulant sur leurs joues, ils dirent « Nous voulons recevoir un Dieu comme celui-ci. » Bien sûr, un Dieu qui peut ressusciter les morts et garder sa parole, voyez-vous. Mais quand il s'agit d'aller simplement à l'église et de vivre comme le diable et le reste du monde ne faisant rien, alors ils n'y croient pas. Et pour être honnête, je n'y crois pas non plus. C'est vrai. Il n'y a pas de passage de l'Écriture qui dise que le communisme gouvernera le monde. Mais une écriture et toute l'écriture dit que le romanisme le fera. Ainsi, gardez les yeux sur cela. Regardez ce soir, regardez même ce qui s'est passé hier soir, ce que dit ce sénateur du Kentucky, quant au fait qu'un républicain occupe maintenant le siège de représentant de l'État du Kentucky. Il dit, il est protestant et il n'y va pas avec le dos appuyé. Lui, un catholique, il devient osé comme tout. Et souvenez-vous qu'il y a d'autres choses qui vont avec cela. Le temps des vierges folles, nous voyons cela, des choses qui ne sont jamais arrivées. Aucun de ces hommes, de ces enseignants, au travers de cet âge, ne pouvait dire ces choses, comme nous le pouvons maintenant, car elles sont ici. Les vierges folles et les pentecôtistes hybrides, c'est la même chose. hybride avec les choses du monde. Maintenant, souvenez-vous que je suis pentecôtiste, mais pas pentecôtiste de dénomination. Je suis hostile à cela. Je suis pentecôtiste par expérience. Nous devons avoir l'air. Les méthodistes sont pentecôtistes, les baptistes sont pentecôtistes, les catholiques sont pentecôtistes, s'ils ont eu l'expérience pentecôtiste. Vous ne pouvez pas organiser la Pentecôte, parce que c'est une expérience, et que c'est Dieu. Et Dieu ne peut pas être organisé. Jésus nous avait dit que ces choses arriveraient. Il nous a dit ce qui se passerait, que la Vierge folle apparaîtrait, ce qu'elle ferait, et que les gens appelleraient un grand cri, désireux d'avoir de l'huile, mais qu'ils arriveraient trop tard. Voyez-vous? Maintenant, observez ces trois églises. Il y a la prostituée, elle n'est rien venue chercher. Elle est centrée sur elle-même. Il y a la Vierge folle, qui est l'église protestante. Et il y a l'épouse, voyez-vous. Maintenant, voici les trois phases de l'église dans ces derniers jours. Maintenant, observez. Nous allons les mettre en évidence de la Genèse à l'Apocalypse pour les placer dans l'enlèvement, Dieu voulant. Toutes ces choses paraissent réelles. La Pentecôte paraît réelle. Pensez-vous, eh bien, j'appartiens à une organisation pentecôtiste. Cela ne vaut pas mieux que si vous viviez dans une porcherie. Cela ne ferait pas la moindre différence. C'est simplement de l'airain qui résonne et une cymbale qui tinte. Peu importe à quoi vous appartenez, si vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu et vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, si vous ne croyez pas toute la parole, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. C'est exactement cela. Le Saint-Esprit, si lorsque vous entendez la vérité, le Saint-Esprit ne vous y conduit pas, alors c'est qu'il y a en vous un autre esprit qui vous en garde éloigné. Ainsi, l'Esprit qui est en vous n'est pas le Saint-Esprit. Très bien. Nous avons parlé de Jannès et Jambrès qui résistèrent à Moïse, voyant ainsi comment ces choses se répéteraient dans les derniers jours. La dernière citation que nous ayons eue, c'était que Dieu fit chaque semence selon son espèce. C'est ça, voyez-vous. Ensuite, lorsqu'il créa l'homme à son image, il fut la semence de sa parole. Et lorsque Jésus fut fait chair, il fut la chair de la parole de Dieu. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devenons alors la parole de Dieu dans notre chair. Voyez-vous, l'Église devrait être dans cette condition-là. Après qu'il eut fait l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Maintenant, après qu'il eut fait ceci, ne le manquez pas. Après que Dieu eut fait l'homme à son image, par sa parole, parler, c'était un homme parfait. Mais la chute vient à cause du sous-produit sorti de lui sous la forme d'une épouse. C'est là qu'est maintenant le mal. Si vous étiez spirituel, vous l'auriez déjà saisi, voyez-vous. Ce n'est pas Adam qui eut des ennuis. Ce n'est pas Adam qui douta de la parole. C'est son épouse qui douta de la parole. Et ce n'est pas Jésus qui doute de la parole. Car il est la parole. C'est son épouse. C'est là que vient l'hybridation. Elle ne va pas par Adam. Honte à vous qui ne voyez pas cela. Ce n'est pas la faute d'Adam. Il n'avait rien à faire avec cela. Si la mort vient par Adam, alors elle devrait venir de Dieu. Non, la mort vient d'un croisement. La mort ne peut pas venir par la parole de Dieu. La mort vient de croisement avec des dénominations et des credos. À la place de Christ et de la parole, un dogme. Cela ne vient pas de la parole. La parole est vie. Jésus a dit, mes paroles sont vie. Et l'Esprit anime cette parole et lui donne la vie. C'est en la croisant que vient la mort. Si Adam était la parole de Dieu, sa parole parlée, sa parole originelle, car elle était le premier par création. Alors le second, Adam, l'est aussi par création, la parole parlée. Suivez-vous? Adam ne fut pas séduit, mais son épouse plus 7, 8. Christ, aujourd'hui, n'est pas séduit. La parole ne séduit pas. C'est l'épouse qui est séduite. Le voyez-vous? Il lui donna une épouse. C'est un type du second Adam. Il donna au premier Adam une épouse. Elle tomba. Il donna au second Adam, Christ, une épouse. Elle tomba. Exactement. Pourquoi? Elle n'est pas l'originale. Elle est un sous-produit. L'épouse aujourd'hui est un sous-produit. Elle se nomme elle-même l'épouse. Alors qu'elle n'est formée, elle est formée de matériaux d'organisation et non de la parole. Elle a en elle une part suffisante de la parole pour en faire un sous-produit hypocrite. Yves croyait la majeure partie de la parole, mais elle douta d'une partie. Aujourd'hui, elle n'est même pas au clair quant à la relation qu'il y a entre Matthieu 28:19 et Acte 2:38. Voyez-vous? Cela la trouble. C'est juste une chose parmi les centaines d'autres. L'épouse d'Adam était un type de l'épouse du second Adam. L'épouse d'Adam ne pouvait pas attendre. Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez et remplissez la terre. C'était une chose à venir, une promesse. Elle n'était pas encore sa femme, parce qu'il n'avait pas encore vécu avec elle. L'épouse de Christ n'est pas encore sa femme. Le souper de noces doit arriver. Comprenez-vous cela? Remarquez, oh, comme c'est riche. Elle était pressée. Et que fit-elle? Elle croisa sa semence. Elle la mélangea avec la semence du serpent. Et lorsqu'elle l'eut fait, elle enfanta un... Qu'enfanta-t-elle? Elle enfanta un enfant de mort. Un enfant qui... Elle pervertit chaque enfant après cela. Et lorsque l'Église de Jésus-Christ fut pervertie du temps de Rome, après sa naissance virginale, et qu'elle lui était donnée à Christ, à Pentecôte, elle, que fit-elle? Elle se croisa avec les dogmes de Rome. Et l'Église protestante a fait exactement la même chose. Elle ne peut attendre. C'est comme une femme fiancée à un gentil jeune homme pur. Avant qu'ils vivent ensemble, qu'a-t-elle fait? Elle est trouvée enceinte de quelqu'un d'autre. Alors, sa propre semence qui est fiancée, son propre corps qui est fiancé à son ami, son futur mari, est trouvé rempli de la semence d'un autre homme. Quelle honte! C'est exactement ce qu'Adam trouva. C'est ce que Christ a trouvé. Elle ne pouvait attendre. C'est ce qui arrive avec les gens aujourd'hui. Ils ne peuvent attendre que le véritable Saint-Esprit prenne position dans l'Église. Ils doivent fabriquer quelque chose, élaborer quelque chose. L'évidence initiale, le parler en langue, pour avoir plus de membres dans l'Église, toutes ces bêtises, au lieu de s'attendre au Seigneur pour la réelle manifestation de la résurrection de Christ, se faisant connaître parmi son peuple. Elle ne peut attendre. Que dit-elle? Et là, elle devint enceinte du dénominationalisme. Premièrement, ce fut les assemblées de Dieu. Ensuite, vinrent les unitaires. Puis tout le reste. Maintenant, la soi-disant épouse est enceinte de toutes sortes de bêtises, de déshonneurs. Les femmes ne font pas plus attention à ce que la parole de Dieu dit qu'à rien d'autre au monde. Les hommes non plus, et même les prédicateurs. Ensuite, appelez cela une épouse. Qu'est-ce? Elle est enceinte. L'épouse de Christ est devenue enceinte du monde, s'habillant comme le monde, agissant comme le monde, avec de grandes églises. Cela montre ce qu'elle est. Elle est du diable. C'est ce que Satan fit au commencement. Il essaya de bâtir un grand et magnifique royaume dans les cieux. Elle fut mise dehors pour cela, excommuniée du ciel. C'est ce que l'épouse moderne de Christ, elle est mise à la porte, elle est excommuniée de Dieu, parce qu'elle est une prostituée et non une vierge. C'est profond, mais j'espère que vous le saisissez. L'épouse d'Adam ne pouvait pas attendre. Elle mélangea sa semence illégalement. Illégalement. Nous sommes censés croire la parole de Dieu et elle seule. Maintenant, frère, ici et sur la bande, voyez-vous pourquoi je lutte pour cette parole, mot après mot? Je vous ai dit que je croyais que c'est la vérité de Dieu. Dieu a protégé cette Bible. Il doit juger le monde par quelque chose, par Jésus-Christ, qui est la parole. Et cette parole fut faite chair pour devenir Jésus-Christ. Je laisse cela pénétrer. Souvenez-vous de la parole. Maintenant, il la trouve toute souillée. Pensez-vous qu'il épousera une telle chose? Jamais. Il est saint. Elle ne pouvait attendre. Illégal. C'est ce qu'Adam trouva. Maintenant, frères et sœurs, regardez en arrière. Si vous regardez l'ombre de quelque chose, elle est l'expression même de l'image réelle qui vient. Ainsi, vous voyez qu'Adam dut trouver la femme enceinte. Elle dit, le serpent m'a séduite. Je vais le prendre des deux manières dans quelques instants, Dieu voulant. Pour vous montrer que c'est impossible que cela soit autre chose. L'épouse d'Adam ne pouvait attendre. Elle alla de l'avant. C'est ainsi qu'elle épouse aujourd'hui. Elle veut fabriquer quelque chose. Gloire à Dieu. Elle doit le produire sur la plateforme. Elle doit tout avoir, voyez-vous. Que fait-elle? Elle fabrique quelque chose. Regardez où cela conduit. Vous pouvez voir qu'il n'y a rien à cela. C'est vivant. Exactement. Si ce n'était pas, le monde serait embrasé avec la puissance de Dieu. L'Église serait embrasée. Oh, des morts seraient ressuscités. Et toutes sortes de choses arriveraient. Mais par quoi fut-elle ensemencée avant que Christ vienne vers elle? Avant qu'il vienne vers elle pour y planter sa propre semence? Qu'avait-elle? De la semence livrée. Le monde, la semence dénominationnelle. C'est la raison pour laquelle elle récolte cela maintenant. J'espère que vous n'êtes pas troublé. Mais j'espère que cela arrive à un endroit où j'ai confiance que Dieu vous l'a donné. Voyez-vous? Maintenant, elle a mélangé sa semence illégalement. Illégalement envers la parole. Qu'essayait-elle de trouver? Maintenant, écoutez attentivement. Que recherchait-elle? La sagesse. La sagesse. Et c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle a envoyé ses prédicateurs dans les écoles pour les incuber avec de la psychologie et toutes sortes de choses qui ne sont même pas dans la Bible. Elle incube ses œufs. Après avoir fait cela, elle produit des gens qui feront des compromis pour tout et qui refuseront le véritable message de Dieu. Elle fait cela sans savoir ce qu'elle fait. Elle l'ignore. Elle ne croit pas, elle ne pense pas être dans l'erreur. Elle non plus ne pensa pas l'être. Elle pensa qu'elle était dans le vrai. Si cela était un type et que ceci soit l'antitype, il devrait agir de la même manière que le type. Maintenant pour moi, c'est comme 2 × 2 = 4. Maintenant remarquez. Qu'arriva-t-il aux enfants d'Ève? Le premier qui vint au monde. Maintenant, si Dieu a dit à l'épouse d'Adam, multipliez et remplissez la terre. C'est là l'ordre de Dieu. Et elle l'aurait fait. Et se serait unie. Mais qu'arriva-t-il? Lorsqu'Adam fut sur le point d'aller vers elle, elle était déjà mère. Voyez-vous ce que je veux dire? La même chose est arrivée à l'Église de Christ, à l'épouse de Christ. Nous allons remonter plus loin dans une minute. Regardez. Que fit alors cette épouse? Lorsque son premier enfant arriva, il était un bâtard. Il était plein de la mort. Elle causa la mort. Chacun, depuis ce moment-là, a la mort en lui. Maintenant, vous voyez que cela devait venir par le sexe. Pourquoi mourriez-vous si ce n'est par le sexe? Lorsque Dieu donne un ordre, il ne peut périr. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut faillir. Lorsqu'il a dit « multipliez, remplissez la terre », c'est là le dessein éternel de Dieu. En l'exécutant, vous ne pouvez pas mourir, parce que c'est sa parole, vous devez vivre. Et si cet enfant était venu de la manière correcte, il n'aurait pas eu de mort, mais elle ne pouvait attendre. C'est là que le problème aujourd'hui. Vous voulez quelque chose d'artificiel, avec des cris, des sauts, des parlaises en langue et autres, au lieu d'attendre que la véritable parole de Dieu soit rendue manifeste au travers de l'épouse. L'espèce qui reçoit la parole est la vraie épouse de Dieu. Les enfants qui lui naissent ne peuvent mourir. Un enfant né de l'épouse, selon la parole, ne peut mourir parce qu'il est la parole. Amen. L'avez-vous saisi? Elle ne peut mourir parce qu'elle, cet enfant ne peut mourir parce qu'il est un enfant parole. Est un enfant semence, est un enfant éternel. Alléluia! C'est exactement ce qu'était Jésus-Christ. Il fut déclaré fils éternel. Il n'avait pas à mourir, mais il le fit afin de payer la dette. C'était la seule manière de la payer. Personne d'autre ne pouvait le faire. Ils étaient tous nés par le sexe, selon le plan du diable. Le comprenez-vous maintenant? Voyez-vous? Mais chaque homme, peu importe qu'il soit, pape, prêtre, évêque ou autre, doit mourir, parce qu'il est un hybride. Exactement. Il est né de Satan et Ève. Vous pouvez l'appeler du nom que vous voulez, mais c'était Satan et Ève. La parole originelle n'avait rien à faire avec cela. La parole originelle était vie. Il hybrida et cela produisit la mort. Et lorsque l'Église aujourd'hui, qui se nomme pentecôtiste, baptiste ou autre, lorsqu'ils hybrident cette parole avec un dogme, cela produit un enfant mort. Elle ne peut pas avoir de vie en elle. Elle est morte. Et tes enfants sont morts. Dieu a dit, je vais la jeter sur un lit de mondanité. Et je ferai mourir tes enfants. Dieu l'a dit dans l'Apocalypse. Combien savent que c'est vrai? Il la mettra sur un lit de mondanité. C'est où elle se trouve. Elle fera mourir ses enfants, même par le feu. Nous voyons où? Qu'arrive-t-il à livrer qui est parmi le blé? Elle est brûlée. Oh, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Elle est la vérité. Quelquefois, vous avez des scrupules par crainte de la présenter faussement. Mais si vous la gardez sur une ligne droite, elle ira toujours 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il la jeta sur un lit de mondanité. Elle ne peut rien enfanter d'autre que des enfants morts. Alors, si une dénomination ne peut enfanter qu'un enfant hybride, pourquoi voulez-vous lui appartenir? Maintenant, frère, c'est la raison pour laquelle je suis contre cela. Elle est une prostituée, pour commencer. La Bible dit qu'elle l'était. Une prostituée. Ce sont des mots forts, mais je vous ai dit que je parlerai franchement aujourd'hui. C'est ce qu'elle est. Elle commet adultère spirituellement, en prenant des dogmes et des credos à la place de la parole, et en enseignant ses enfants à faire de même. Les enfants qui sortent de son sein sont morts. Elle doit mourir, exactement. De même que chaque homme, écoutez, de même que chaque personne mortelle qui s'approche du sein d'une femme doit mourir, ainsi chaque personne qui naît d'eux doit mourir. Parce qu'elle est hybride, illégitime, et ses enfants sont illégitimes. C'est correct. J'espère que cela ne passe pas par-dessus vos têtes. Une fois, Jéhovah eut une épouse. Adam eut une épouse. Jésus eut une épouse. Jéhovah eut une épouse. Savez-vous cela? Et Dieu l'a renvoyée. Elle devint une prostituée. C'est pourquoi et Dieu l'a renvoyée. C'est exactement ce qu'il a dit. Elle devint une prostituée. Qu'est-ce qui lui fait faire cela? Je souhaiterais que nous ayons le temps de le lire. Il se peut que j'en aborde une partie dans un moment. C'était du temps de Samuel, lorsqu'Israël avait un roi, un Dieu, et que cette nation était vierge. Elle avait enfanté quelque chose. Mais qu'arriva-t-il? Elle commença à regarder autour d'elle. Elle vit que les autres nations avaient des rois. Elle voulut être comme tous les autres. Vous, pentecôtistes ratés, c'est exactement ce que vous avez fait. Lorsque ce vieux prédicateur qui est ici, qui a aujourd'hui près de 100 ans, lorsque la Pentecôte commence là-bas, vous ne pouviez pas leur parler d'organisation. Ils ne voulaient pas écouter cela. Ils appelaient cela du diable. Et ces hommes avaient raison. Mais qu'avez-vous fait? Vous avez voulu agir comme le reste des églises. Il fallait que vous l'organisiez absolument. Ensuite, comme il l'a dit, vous avez dressé des barrières entre vous. Vous êtes mis enseigné à cette manière. Gloire à Dieu, alléluia. Et lorsqu'il a sauté de haut en bas, parlé en langue, vous avez dit, prenez-le comme membre. Il l'a reçu. Alors qu'il était baptisé correctement, ni d'eau, ni de l'esprit. Il est dans l'erreur. Ses fruits le prouvent. Il croit sur la mauvaise sorte de semence. Dieu soit béni, frère. Nous vous imposerons les mains ici. Nous ferons de vous un ancien. Je vous dis ce que vous allez bâtir cette organisation ici. Je veux dire qu'elle soit plus grande que les assemblées. C'est ainsi que cela arriva. Lisez l'histoire de la Pentecôte ou de n'importe quelle église. Et vous verrez si ce n'est pas ainsi. Les baptistes veulent surpasser les Pentecôtes, les méthodistes veulent surpasser les luthériens veulent surpasser les catholiques. Chacun veut surpasser quelqu'un, voyez-vous? C'est l'esprit d'organisation. Mais Jésus a dit, mais peu seront sauvés. Étroite est la porte, et resserrée est le chemin. Et il y en a peu qui les trouvent. Juste quelques-uns. S'il a dit peu, c'est la parole de Dieu, cette semence. Il y en aura peu. Il n'y en aura pas des dizaines de milliards. Il y en aura peu qui les trouveront. Ceux qui sont prédestinés à cela l'entendront. La première pluie a été déversée maintenant. Jéhovah avait une épouse qu'il aimait, mais elle se prostitua. Que fit-elle? Elle alla après les autres puissances du monde. Et que fit-il avec ce vieux et pieux prophète roi, sachant que la parole du Seigneur vient au prophète? Il envoya ce vieux prophète Samuel vers eux, et celui-ci leur dit, « Mes enfants, rassemblez-vous au milieu, une minute autour de moi. Je veux vous parler à tous. Pourquoi voulez-vous un roi? Jéhovah est votre roi. Pourquoi voulez-vous un credo? La Bible est votre credo. La Bible est la vérité. Les credos sont des mensonges. Vous êtes morts. Ces choses sont faites par l'homme. Le credo des apôtres, montrez-le-moi dans la Bible. Qui a entendu parler d'une telle chose? Je crois dans la communion des saints. Toute personne qui croit dans la communion des saints est un spirit. La communion avec les morts. Il n'y a qu'un intercesseur entre Dieu les hommes et c'est Christ. Il n'est pas mort, mais il est vivant à jamais, ressuscité des morts. Les protestants avalent cela avec un collet monté, je ne sais pas quoi d'autre. Avec tout le catéchisme des églises, ils l'avalent de la même manière. Ils aiment cela, bien sûr, comme le reste du monde. Oh, vous savez, nous étions pentecôtistes, nous tenions au coin d'une rue, un tambourin à la main, et nous prions. Les femmes se tenaient là, leurs longues chevelures tombant sur leurs épaules, et nous louions Dieu. Oh, miséricorde, vous savez faire mieux que ça. Les gens vous rirent au visage, un vrai chrétien le ferait. Si maintenant vous vous teniez avec cette touffe de cheveux courts sur la tête, ce pot de peinture sur le visage, une robe qui ressemble à une saucisse pelée, et vous sortiez ainsi, et vous appelez encore une sainte, pourtant vous le savez. Le monde le sait aussi. Honte à vous, vous feriez mieux de rester éloigné de l'angle de la rue, si vous ne pouvez pas produire autre chose que cela. Je ne suis pas critique. Je ne suis pas hors de moi-même. Je vous dis la vérité, et vous verrez dans les jours à venir que c'est comme cela a toujours été, cela passera toujours par-dessus. Et ainsi, ils ne le verront que lorsque ce sera trop tard. Ils ont agi chaque fois ainsi, ils l'ont déjà fait. L'épouse de Jéhovah voulut aller se prostituer, comme le faisaient les autres. C'est ce que l'épouse de Jésus voulut faire. Et le vieux Samuel, à qui la parole venait, à qui venait la parole? Au prophète. Que dit ce vieux prophète? Maintenant une minute, mes enfants. Pourquoi voulez-vous courir après cela? Vous avez déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Vous souvenez-vous de cela? Combien l'ont-ils déjà lu? Bien sûr que vous l'avez lu. Vous avez déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit arrivé? Es-tu aller tenir de grandes campagnes, etc. Vous ai-je pris tout votre argent? L'ai-je fait, dit-il? Vous ai-je déjà réclamé? Je parle maintenant de Samuel. quelqu'un à qui la parole du Seigneur venait. Il dit, vous avez déjà demandé de prendre, de verser tant et de faire telle ou telle chose? Non, dirent-ils. Non, tu ne nous as jamais fait cela. Tu ne nous as jamais rien dit d'autre que la vérité. Il dit, alors pourquoi voulez-vous courir après cela? Et dire, Samuel, tu as mille fois raison, nous le voulons quand même. C'est exactement ce que l'Église pentecôtiste a fait. C'est la raison pour laquelle je ne me joins pas à eux. Assurément, car je désire rester une vierge devant Dieu avec sa parole. Je n'ai pas besoin d'avoir de grandes manifestations et des choses comme cela. Je les ai refusées. Je n'ai pas voulu être lié. Ce n'était pas ma sagesse, c'était la sagesse de Dieu. Si je devais aller pour que je puisse, si je devais solliciter les gens et leur dire, oui, je dois avoir temps pour une émission de télévision, je dois avoir temps pour de ceci, ça vous le payez. Je devrais aussi tirer les ficelles comme cela. Mais je ne vous ai jamais rien dit au nom du Seigneur qui ne soit arrivé. Je n'ai rien dit d'autre que la parole. Jugez-vous-même, vous êtes déjà sollicité pour quelque chose? Non, monsieur. Non, Dieu a pris soin de cela. Je n'ai pas de grand programme à supporter. Je n'en voudrais pas. Tous ceux qui appartiennent à Dieu entendront Dieu. Sentez-vous conduit par l'esprit quant à l'endroit où aller et quant à la chose à faire et faites cela. C'est tout ce qui est nécessaire. Gardez cela, mais n'ayez pas le grand programme dans l'intention de faire beaucoup d'argent dans lequel des millions et des milliers de dollars sont investis. Oui, des millions et des millions, et certains d'entre eux y mettent maintenant des millions et des milliards de dollars. Ce n'est pas de scrupule à critiquer cette façon de faire. Cela mérite la critique. Je ne veux pas blesser les sentiments de quiconque, mais je préfère blesser les sentiments d'un homme que de blesser les sentiments de Dieu. Si vous a donné un ordre et envoyé pour l'exécuter, et s'il l'a prouvé parmi les gens, vous devez l'entendre. Je vous dis la vérité. Dieu a prouvé que c'était la vérité. Pas seulement par des signes, mais il a prouvé par sa parole que c'est la vérité. Exactement. Ainsi, l'épouse de Jéhovah alla se prostituer. Et que fit-elle? Elle enfanta à nouveau un tas d'enfants illégitimes. Est-ce vrai? Nous savons que c'est la vérité. Et du même, elle dut même être enlevée par le roi Nebuchadnezzar. L'épouse de Christ a fait la même chose. Que se passe-t-il? Elle ne peut attendre. Oh non! Elle ne peut simplement pas attendre. Ils doivent fabriquer quelque chose. Ils ne peuvent attendre que le Saint-Esprit vienne et entre dans l'Église. Voyez-vous? Ils doivent pénétrer plus avant de leur dénomination. Ils étaient restés comme ils l'étaient il y a 100 ou 50 ans, lorsque la Pentecôte débuta et que la parole commença à être prêchée. Ils étaient restés là, ils n'auraient probablement pas plus de 50 membres aujourd'hui. C'est vrai. Mais ils seraient lavés par le sang. Ils auraient la puissance de Dieu en eux. Le monde serait secoué par l'énorme impact de la parole faite chair, prononcée mort après mort. Mais aujourd'hui, c'est comme de l'airain qui résonne et une cymbale qui retentit. C'est vrai, cela devient un non-sens, un objet de risée, une honte pour le monde, une honte pour Dieu. Un matin dernièrement, je suis allé déjeuner avec deux autres frères dans un endroit près de Springfield, dans le Missouri, en revenant de l'Arizona. Il y avait là une petite dame, Esther Wood, me fit remarquer qu'elle ressemblait à Dr. Collins. Était blonde, avec beaucoup de cheveux derrière la tête. Il dit, ne ressemblait-elle pas à l'épouse de frère Willard Collins? Je dis, effectivement. Voilà une autre dame qui arrive et je dis, je suppose que c'est sa mère. Regardez le volume des cheveux. Cet endroit se trouve près de l'église des Assemblées de Dieu et de ses quartiers généraux. C'est la raison pour laquelle elles sont comme cela. Beaucoup de ces jeunes sœurs étaient assises là, avec ces coiffures en forme de boule. C'étaient les étudiantes. Elles étaient là, qui s'amusaient toutes, vous savez, et chacune portait sa Bible sous le bras. Nous les observâmes jusqu'à ce qu'elles sortent toutes. Elles étaient là, qui ricanaient, riaient, s'amusaient comme la jeunesse de ce monde. Et dire que c'est la récolte de la Pentecôte qui se prépare pour demain, s'il y en a une, pourquoi? 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 Parce que c'est la semence qui était plantée. Exactement. Lorsqu'elles furent toutes sorties, cette petite dame revint vers nous et dit, puis-je faire quelque chose pour vous? Je dis, j'aimerais vous poser une question. Oui, monsieur? Je dis, comme un étranger, je pensais qu'il se pouvait qu'elle nous connaisse. Je dis, n'est-ce pas une école biblique de l'autre côté de la rue? Elle dit, oui monsieur, c'en est une. Je dis, je pense que vous faites bien des affaires avec eux. Il y avait avec moi frère Fred Softman qui est assis là et frère Banks Wood, deux des administrateurs de l'église. Je dis, elle dit, oui c'est cela. Je dis, je suppose que vous lui appartenez. Elle dit, non je regrette, mais je ne lui appartiens pas. Je dis, la raison pour laquelle je pensais cela, c'est à cause de votre belle et longue chevelure. Et je suppose que c'est la votre mère. Elle dit, non monsieur, elle ne fait que travailler ici. Mais j'aime les longs cheveux. J'ai une petite fille, et je lui fais aussi porter de longs cheveux. Mon mari aime les cheveux longs. Je dis, que Dieu le bénisse. Elle dit, eh bien, je dis, comme c'est étrange, est-ce là des étudiantes, ces filles aux cheveux ébouriffés à la manière de la femme la plus populaire? Oui. Je dis, merci. Et nous sortîmes. Je dis, Dieu a mis cette femme-là comme un blâme vis-à-vis de ce tas de jeunes bâtards venant de l'autre côté de la rue. C'est vrai, illégitime, à la manière des choses du monde. Combien de femmes, à la manière de Jézabel, la première femme du pays, combien d'entre elles pensez-vous qu'il y a ce soir au ciel? Voyez-vous? Les choses du monde, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. De votre belle et longue chevelure. Et je suppose que c'est là votre mère. Elle dit, non monsieur, elle ne fait que travailler ici. Mais j'aime les longs cheveux d'une petite fille, et je lui fais aussi porter de longs cheveux. Mon mari aime les cheveux longs. Je dis, que Dieu le bénisse. Elle dit, eh bien, je dis, comme c'est étrange, est-ce là des étudiantes, ces filles aux cheveux ébouriffés à la manière de la femme la plus populaire? Oui. Je dis, merci. Et nous sortîmes. Je dis, Dieu a mis cette femme-là comme un blâme vis-à-vis de ce tas de jeunes bâtards venant de l'autre côté de la rue. C'est vrai, illégitime, à la manière des choses du monde. Combien de femmes, à la manière de Jézabel, la première femme du pays, combien d'entre elles possèdez-vous?
C'est cela, la crème de la moisson de demain dans la Pentecôte, le plus grand mouvement dans notre pays. Vous y êtes. C'est l'épouse. Je ne comprends pas. Très bien. Qu'essaye-t-elle de faire? Oh, elle fabrique quelque chose sur la plateforme. Chercher à me moquer de cela. C'est ton ordre. Elle fabrique quelque chose d'autre. Pourquoi? Pour avoir des membres de l'église. Que se passe-t-il? Elle ne peut simplement pas attendre. Voyez-vous? Elle ne veut pas attendre que Dieu fasse cela. Elle doit amener des membres d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi elle leur dit, vous devez faire cela. Et ça y est, voyez-vous? Voilà la semence qui monte. Vous devez faire cela. Je suis un missionnaire. J'ai vu des Africains prendre le sang d'un animal et le verser sur eux-mêmes, comme ceci. Hommes et femmes sont tout nus. Et ils mettent de la peinture sur leur visage. C'est de là que ça vient. Le phare vient d'une coutume païenne, mais ce n'est pas pour nous qui sommes des chrétiens. Des humains, des croyants, cela n'a jamais été pour nous. Il n'y a qu'une femme dans toute la Bible qui se soit fardée, et c'était Jézabel, un démon. Ainsi, ils mettent de la peinture sur leur visage, et de grandes et longues choses à leurs oreilles, comme des morceaux de bois chez les Zoulous. C'est un morceau de bois qui fait que le lobe de l'oreille s'allonge beaucoup, et quelquefois ils font leurs lèvres, et les font s'avancer, ils pensent que c'est beau. Et ils mettent du sang sur leur poitrine et sur leurs jambes, et se font des rayes comme un zèbre. Elles crient, dansent dans l'esprit, et parlent en langue, et adorent des démons. L'évidence du Saint-Esprit. J'étais en Inde, où il y a ceux qui marchent dans le feu, et tout le reste. Et je sais que cela est vrai. Il y a là-bas une grande idole avec des rubis comme boucles d'oreilles, et des choses comme cela. Et ils s'affligent et supplient, se plantent des choses dans la chair, se frappent, poussent leurs lèvres en tombe, s'ils ont menti. Font pénitence, croient leurs lèvres avec un sabre, ou traversant de leur menton à leur nez, pour le faire ressortir comme cela. Ils prennent le grand son à poisson comme des boules d'arbre de Noël, les remplissent d'eau et en suspendent des milliers sur leur corps, directement à travers la chair, et vont là-bas danser autour de cette idole. Ils tuent une chèvre, adorent comme ceci, et marchent sur des charbons ardents, dans une brûlure. Certains d'entre vous, pentecôtistes, devraient essayer. Cela arriva pour les enfants des Hébreux. Toutefois, ils ne tentèrent jamais le Seigneur leur Dieu. Ils furent jetés là-dedans. Ils n'essayèrent pas de fabriquer quelque chose. C'est là que le problème avec les pentecôtistes aujourd'hui. Ils essayent de fabriquer quelque chose. Ils ne peuvent attendre. Oh Dieu, ils ne peuvent attendre. C'est pourquoi ils commettent adultère. Amen. Ils prennent de l'ivraie pour fabriquer quelque chose. Et qu'est-ce que cela produit? La même chose que la première fois, sa première épouse. Ils ne pouvaient attendre. Elle amena la mort au travers d'un enfant bâtard. Nous sommes tous les enfants. Mais Dieu va dans la chair pour nous donner une autre naissance, afin de nous ramener à l'état de fils et filles de Dieu originaux. Voyez-vous, c'est cela. Le véritable sperme d'Ève n'arriva jamais. Il n'arriva jamais. Pourquoi? Elle le mélangea. Elle l'a éloigné. Au lieu qu'Adam vienne vers elle pour la prendre comme épouse, lorsqu'arriverait le temps fixé, de même que Christ serait venu vers le groupe, qu'il devait venir vers son Église. Il a promis de le faire. Dieu a promis de multiplier. Mais il devait s'attendre jusqu'au moment choisi par Dieu. C'est là que le problème aujourd'hui. On ne veut pas attendre le moment choisi par Dieu. On veut avoir quelque chose d'autre, ainsi le diable a une sagesse toute prête pour nous la donner. Faites une organisation, soyez plus grand que les autres. Maintenant, voyez-vous pourquoi je suis contre cela? Assurément, je suis contre cela avec tout ce qui est en moi. Aussi longtemps que la parole sera là, elle sera toujours contre cela. Dieu est contre cela. Dieu l'a dit, c'est vrai. Il ne pouvait pas attendre. Ainsi le sperme d'Ève n'arriva jamais. Il brillait au mensonge de Satan, sa charmante épouse devint polluée. Et l'épouse de Christ a fait de même. L'épouse, celle qui l'a fait venir polluée, maintenant l'épouse d'Adam, parce qu'elle ne resta pas avec la parole de Dieu. Est-ce vrai? Je me demande maintenant. Ce n'est pas ainsi. Ne le dites pas, mais si c'est ainsi, dites-le. La raison pour laquelle Dieu, la raison pour laquelle l'épouse d'Adam, voilà les trois. Adam, Christ, Dieu. La raison pour laquelle l'épouse d'Adam ne conçut pas l'enfant de la vie, c'est qu'elle ne crut pas la parole de Dieu. Si c'est vrai, dites amen. La raison pour laquelle la femme de Jéhovah fut renvoyée, ou son épouse, c'était qu'elle avait rejeté la parole de Dieu. Le prophète, est-ce vrai? La raison pour laquelle l'épouse de Christ est renvoyée après un divorce, c'est qu'elle a rejeté la parole de Dieu comme le fit Ève, comme le firent les autres. Exactement. Ce sont toutes des prostituées. Toutes sont polluées. Leur mari ne pouvait aller vers elles. Elles étaient déjà enceintes avant que le mari les approche. Oh Dieu, n'est-ce pas une chose lamentable? Pensez à un jeune homme qui viendrait vers une femme pour découvrir qu'elle a en elle la semence d'un autre homme. Quelle situation. C'est ce que Dieu a découvert, c'est ce qu'Adam a découvert, c'est ce que Christ a découvert. Oh, oui. Elles ne sont pas restées avec la parole et cela a produit une condition hybride. C'est ce qu'a fait Israël. Voyez-vous où elle en est? C'est ce qu'a fait l'épouse de Christ. Voyez-vous où elle en est? De nouveau avec tous les autres. L'épouse pentecôtiste de Christ a fait la même chose. Elle ne peut pas donner naissance à des enfants paroles spirituelles, car elle-même est hybride. Comment peut-elle le faire? Alors qu'elle-même est hybridée avec les dénominations. Elle s'est jointe à elle, elle est dans toutes choses comme elle. Elle est dans le conseil des églises et tout le reste, elle est aussi hybride que les autres. Comment peut-elle le faire? Elle ne le peut pas. J'ai tellement de choses à dire que je dois me dépêcher. J'aimerais pouvoir prêcher sur chacune de ces choses. Voyez-vous? Maintenant, observez. La véritable épouse. Alléluia, il y en aura une. Pourquoi? Elle est prédestinée. Elle ne portera pas un nom de dénomination, parce qu'elle est prédestinée. Elle n'a pas à s'inquiéter d'une dénomination. Elle est déjà prédestinée pour prendre la place. Regardez, comme Marie, je veux que vous compreniez ceci maintenant. Ne le manquez pas. Êtes-vous prêts? Dites amen. Donc le Christ ira vers son épouse. Elle sera vierge, comme Marie l'était. Car Dieu ne produira pas Christ au travers d'une vierge, du sein d'une prostituée. Elle ne le fera pas non plus pour l'épouse. Elle ne peut pas produire sa parole au travers d'une prostituée de sa parole. Ce sont des mots horribles. Mais c'est ce que la Bible dit. Je dis ce qu'elle dit, parce que ceci doit être compris. La véritable épouse, comme Marie, aura un sein vierge pour l'épouse de la parole qui est Christ. Lorsque Christ, la parole, ira vers l'épouse, elle sera comme lui, une vierge par la parole. Oh, j'espère que ça porte, Père Neville. Voyez-vous, j'espère que vous comprenez. Qu'était-il? La parole de Dieu. C'est un nom écrit sur son vêtement, la parole de Dieu. Au commencement de la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole devint chair et habita parmi nous. Il est Dieu, et Dieu est la parole. Et lorsque son épouse viendra, elle sera du même produit que lui. Une vierge. Si. A-t-il appartenu à une dénomination? Et Jéhovah dit son épouse. Elle est une partie de lui. Elle n'a pas besoin de dogme. Elle n'en aura pas. Elle sera absolument vierge. Comment? Par la parole. Amen. Elle ponctuera chaque parole de Dieu que Dieu prononce d'un Amen. Amen. Oh, qu'il en soit fait pour moi selon sa parole. Amen. Oh là là, c'est cela, ponctuer la parole de Dieu. Ayez un saint vierge. De quoi sortira-t-elle? D'un saint vierge. La parole. De quoi sortit Jésus? D'un saint vierge. Voyez-vous? Lorsqu'Adam alla vers sa femme, elle était enceinte. Elle avait fait quelque chose. Elle était mélangée. Elle hybrida l'enfant et elle mourut. Mais lorsque Joseph alla vers son épouse, elle était enceinte. Mais de la vie, la femme d'Adam ou l'épouse d'Adam, avant qu'ils s'unissent, comme Joseph et Marie, comme Christ et l'Église maintenant, ne le voyez-vous pas? Avant qu'Adam et Ève s'unissent, elle était enceinte par la semence corrompue du serpent. Et lorsqu'Adam alla vers sa femme, il découvrit qu'il était enceinte de la mort. Voyez-vous? La mort. Comment? Spirituellement. Physiquement mort. Mais lorsque Joseph, l'humain, alla vers sa femme, gloire, je peux difficilement le retenir. Et d'être enceinte de la vie. La parole de Dieu fait chair parmi vous. Ramenez cette parole parlée. Ramenez cette parole de Dieu qui est ici, la parole, et qui va au travers du saint, d'un saint humain. Amen. Dieu le fera de toute manière. Il l'a dit. Et ce doit être ainsi. Oh, gloire. Amen. C'est cela notre Dieu. Oh, c'est riche, frère. Si vous pouvez le digérer, l'atteindre. C'est là qu'il le trouva. Lorsqu'Adam alla vers sa femme, elle était enceinte de la mauvaise semence. Cette semence mourut. Lorsque Joseph alla vers la sienne, elle était enceinte. Quelle fut la différence? Ce fut que la femme d'Adam douta de la parole. Est-ce vrai? L'épouse de Joseph crut la parole. C'est la différence. Ainsi qu'est-ce? C'est la parole. Oh, cette précieuse parole. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Alléluia! C'est là ma position. Que toutes les dénominations et le reste tombent et fassent ce qu'ils veulent, sur cette parole, je me tiens. C'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. C'est pourquoi j'ai abaissé les dénominations. Vous dites, il n'est qu'un démolisseur d'église. On a dit la même chose de notre Seigneur. On le dit chaque fois, voyez-vous. Maintenant, il l'a découvert. Christ va vers son épouse. Vous la trouve-t-il? C'est pareil. Pourquoi? Lorsqu'elle commença, maintenant écoutez, je ne veux pas que vous manquiez ceci. Lorsqu'elle commença, elle était vierge. Tout allait bien pour elle. Elle continua dans l'église primitive. C'était merveilleux. Je lui donna une épouse. Et que dit-elle? Si vous connaissez l'histoire, en 606, elle alla là-bas et devint enceinte de dogme romain ou d'organisation. Et depuis ce moment-là, cette vieille mère prostituée, dont parle la Bible, donna naissance à des églises. Elles devinrent des prostituées. Ce sont des protestants. Car chacune d'entre elles naissait d'elles, et chacune choisit sa propre destinée, l'organisation. Maintenant, voyez-vous pourquoi je suis contre cela? Très bien. Car la naissance de la parole est Christ. Ce n'est pas quelque chose qui est pollué par des dénominations. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de dénomination. Il n'y avait que la parole et l'irrigation de l'esprit. Frère, Dieu plaça sa parole, comme cela le Saint-Esprit l'irriga, elle partit. Elle eut des enfants, certainement. Mais cette église ne peut pas le faire. Elle est trop marquée par l'esprit des dénominations. Voyez-vous? Elles ne veulent pas le faire. Elle a mélangé le monde avec cela. Regardez ce qu'elles ont fait. Maintenant, observez. Dieu confirma sa parole au travers de son corps. Est-ce vrai? Ensuite, elle alla se prostituer, comme le fit la femme d'Adam dans l'Éden, et la femme de Jéhovah au jour de Samuel, qui prit un roi, divorça avec Dieu, son mari, sa parole et son prophète, son porte-parole. Elle alla se prostituer comme les autres nations, et Dieu la répudia. Il a fait la même chose aujourd'hui. C'est le même acte. Les fils et l'épouse commettent adultère, voyez-vous, avec l'épouse, le fils de Dieu, son épouse de la Pentecôte, vierge de la parole, alla se prostituer et commettre adultère, comme le fit la femme d'Adam, et comme le fit la femme de Jéhovah. Et ici, la femme du fils va se prostituer, commettre adultère avec les dieux romains. Pluriel, les dieux. Et par amour pour ses prétendants, les dieux romains, elle essaya de prendre son propre mari et de le partager en trois, pour plaire à ses prétendants. Oh Dieu, sois miséricordieux envers eux. Assurément, ils ont des centaines de dieux. Astarté, le dieu soleil, Balaam, le dieu soleil, la reine du ciel et tout le reste. Ainsi, l'épouse, pour plaire à ses prétendants malfamés, Dieu ne part-il pas dans les cantiques de Salomon, de cette femme qui n'était rien d'autre qu'une prostituée et qui était prête à recevoir tout le temps les prétendants qui passaient? Je parle franchement, mais c'est ce que la Bible dit. Chaque homme qui voulait aller avec elle pouvait le faire. C'est la même chose que fit l'épouse de Christ. Elle s'ouvrit à toutes les habitudes sales et corrompues des organisations. Elle a fait la même chose. Je serai critiqué. Cela ne fait rien. Car je serai aussi béni pour ceci. Mais ce sera la vérité. La vérité de Dieu, car il veut que cela soit déclaré. Elle essaie ici de faire de mon mieux pour le dire. Voyez-vous? Elle essaie de plaire à ses nombreux prétendants. Pour cela, elle essaya avec ses prétendants d'hybrider la parole de Dieu. Comme cela ne marche pas, elle dit, élevez-vous contre cela. Elle dit sa propre parole. Maintenant, elle prétend être elle-même la parole. Mais ne laissez pas les protestants accuser les catholiques, car ils font la même chose dans le conseil de leur propre église. Ils se prostituent. Ce n'est pas étonnant qu'on les appelle des prostituées. C'est dur, n'est-ce pas? Cela vous fait froid dans le dos. Mais c'est parfois ce qu'il faut pour vous réveiller. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a quitté Jésus, le mari-parole, de même qu'ils quittèrent Samuel et prirent Saül. Ils quittèrent le prophète roi par la parole et prirent un roi avec un sceptre. Alors que finalement, elle serait allée vers le roi portant du sceptre dans le millénium. Mais maintenant, elle est rejetée. Il alla dans les gentils pour trouver une épouse. Est-ce vrai? C'est la parole. Donc, elle quitta Jésus, la parole. Jésus, la parole, et épousa un autre homme, appelé le pape, avec ses dogmes. Maintenant, elle n'a pas Jésus, elle a un pape. Maintenant, nous n'avons pas. Les protestants n'ont pas Jésus, ils ont une dénomination qui est une image de la bête. Ainsi, elle ne peut pas donner une naissance parole à ses enfants. Aucune ne peut le faire. Elle est en elle-même une prostituée. La Bible le dit. Elle avait une coupe dans la main, elle proclamait sa doctrine aux gens, ce qui était une abomination et l'impureté de sa fornication. Qu'est-ce que la fornication? C'est de vivre d'une façon impure. Car la doctrine qu'elle donne aux gens, ce sont les impuretés de sa fornication. Et les rois de la terre et ceux qui habitent ont été enivrés du vin de sa fornication. Exactement, regardez-les. Oh, en une minute, ils vous couperaient la gorge pour cela. Pas seulement les catholiques, mais aussi les protestants. Écoutez, vous les méthodistes, qui tu as, Joseph Smith? Chantez maintenant. Bien que je ne crois pas sa doctrine, je ne crois pas non plus la vôtre. Ce n'est pas cela, c'est vous. Voilà la raison. Joseph Smith avait autant que vous le droit de prêcher sa religion ici dans ce pays. Mais vous l'avez tué dans l'Illinois. Vous avez tiré sur lui, sans raison. Parce qu'il avait quelque chose d'un peu différent. Ensuite, vous criez contre l'Église catholique. Sortez de ce pas de non-sens, vous, méthodiste qui êtes ordonné à la vie éternelle. John Wesley se retournerait dans sa tombe s'il vous voyait agir ainsi. Assurément, John Wesley n'a jamais établi une telle église. Un tas de riquiers d'Elvis le firent après la mort de John. C'est vrai. Mais pas John Wesley. Ce ne sont pas les premiers pentecôtistes qui ont atteint un résultat comme celui-ci. C'est le groupe qui est venu après leur mort. C'est vrai. Jésus-Christ n'aurait pas établi quelque chose comme ce que nous avons maintenant et que nous appelons la Pentecôte. Et le Saint-Esprit non plus. Mais c'est quelque chose que vous avez pris à la place. Mais le Saint-Esprit est quelque chose qu'ils ne peuvent pas plus maintenant. Il va néanmoins prendre une épouse. Et il va malgré cela en prendre une. Il a dit qu'il la prédestinerait. Elle a quitté Jésus, son mari parole, pour épouser un pape. De ce fait, elle ne peut pas donner naissance de naissance spirituelle. Cependant, elle peut donner une naissance dénominationnelle. Elle a beaucoup de semences de cette espèce. Mais elle ne peut donner de naissance spirituelle car elle est une prostituée. La seule chose qu'elle puisse donner, c'est une vie dénominationnelle. Et beaucoup de bourrage de crâne. L'Église catholique elle-même est faite de quelques superstitions tirées du christianisme et d'un tas de romanisme. L'Église pentecôtiste est tout aussi mauvaise avec des sauts, cris, parler en langue et choses comme cela. Ils ont assez de tempérament pour combattre une scie circulaire et vous renvoyer de leur congrégation. Si Dieu venait et ressuscitait un membre chez eux et que vous ne soyez pas d'accord avec eux, ils vous mettraient à la porte parce que vous n'appartenez pas à leur organisation. Maintenant, cette vieille mère prostituée, je retourne à elle une minute. Elle prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés, mais vous n'êtes pas jugé par vos prétentions. On vous ne connaît pas par vos prétentions, on vous connaît par vos œuvres. Comment peut-elle pardonner les péchés? Regardez-la. Lorsque Jésus fit la même chose, il dit, vous me condamnez? Montrez-moi où je n'ai pas cru la parole. Elle prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés, mais cela ne vient que par la parole. C'est vrai. Dieu seul peut pardonner les péchés. Est-ce vrai? Ces pharisiens n'ont-ils pas dit cela? Que se passait-il avec ce tas de hypocrites aveugles? Ils ne voyaient pas que c'était la parole qui était avec eux. Il est la parole. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle ils pouvaient pardonner les péchés. Il était Dieu. Il était la parole manifestée. L'Église catholique dit que Jésus leur a donné la puissance. Il le fit. Il donna la puissance à l'Église, c'est vrai, nous croyons cela. Toutes ces filles sont des prostituées. Toutes ces filles dénominationnelles, sont des prostituées. Très bonne âme, c'est un bien grand mot. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole, exactement. Ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Très bien. Comment, vous dites, comment le sont-elles? Comment deviennent-elles des prostituées? Pourtant, ce sont de bonnes gens. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas ce qu'ils sont. Je ne dis pas que les catholiques ne sont pas bons. Ils sont aussi bons que n'importe qui. Ce sont des êtres humains comme nous. Mais lorsqu'il s'agit de cette vieille église, elle est dans l'erreur. Les protestants sont aussi bons, les méthodistes sont aussi bons que les baptistes ou que les pentecôtistes ou que n'importe qui d'autre. Ils sont tous pareils. Mais alors, comment peut-elle être une prostituée? Pourquoi cela? Elle puis subir le test de la parole. C'est ainsi que vous pourrez le savoir. Éprouvez-la une fois par la parole et voyez ce qu'elle dit. Oh, bien sûr, on nous a enseigné au séminaire, c'est ainsi de ce temps-là, c'est ainsi du temps des apôtres, c'est seulement pour les apôtres, vous soi-disant Église de Christ. Parlez lorsque la Bible parle et taisez-vous. Eh bien, j'aimerais maintenant vous entendre un peu parler. Non, vous vous taisez. La parole de Dieu fait tout taire, frère. Nul ne peut se vanter. C'est vrai. Toutes ces filles sont des prostituées. Comment? Pour la même raison que leur mère, car elles commettent fornication spirituellement contre la parole. C'est ainsi que l'Église catholique est devenue une prostituée. C'est ainsi que ces filles deviennent des prostituées. C'est pareil, des fornications spirituelles contre la parole. Elles et ces filles ont un sein de prostituées. Seule la mort peut venir d'elles. Dieu ne veut pas amener la vie au travers de la mort. Et tout ce qui est mort-né n'est pas vivant. Comme Job l'a dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun, c'est vrai. Comment peut-elle enfanter si elle-même est morte? Comment peut-elle être une vierge? Elle est une prostituée. C'est cela, tout cela. Oh là là, nous allons parler de quelque chose de vraiment riche et plein de vitamines, allant de la Genèse à l'Apocalypse. Regardez, remarquez qu'elle et ses filles ont un sein de prostituée. Seule la mort peut venir d'elle. Si vous les joignez d'organisation pensant que tout ira bien pour vous, vous verrez, vous atterrirez. Vous atterrirez en plein dans la mort, exactement. Si vous ne pouvez pas voir cela maintenant, vous êtes spirituellement aveugle. Maintenant, retournons en arrière pour reprendre quelque chose. Vous souvenez-vous du sujet du dimanche passé? La porte de l'âme? Vous souvenez-vous? Ainsi, il y a un sein pour ce qui est physique, et il y a un sein pour l'esprit. Croyez-vous cela? Il y a un sein spirituel et un sein physique. L'intelligence est le sein de l'esprit. Pourquoi? Maintenant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit dimanche passé. Je vais dessiner pour vous. Il y a 5 sens qui font entrer la semence de l'extérieur. La vue, le goût, le toucher, l'odeur à l'ouïe. 5 à l'intérieur, la conscience, etc. 5 à l'intérieur. Maintenant, du côté de la vie, il n'y en a qu'un. C'est ainsi que vous, sur la base de la libre action morale, vous pouvez accepter, faire entrer ou faire sortir. Voyez-vous? C'est ainsi que l'adultère est commis spirituellement. Lorsque vous, connaissant la parole de Dieu, acceptez un mensonge du diable par un rapport avec l'esprit plutôt que la parole de Dieu, c'est exactement ce que fit Ève. Premièrement, il y eut un rapport spirituel. Lorsqu'elle crut le mensonge de Satan, elle le laissa entrer dans le sein de son esprit. Cela pollua son âme et plaça la mort dans l'âme. Ensuite, l'acte naturel se produisit. C'est la seule manière dont une femme puisse commettre adultère contre son mari. C'est premièrement de laisser un homme la convaincre et ensuite recevoir un homme qui n'est pas son mari. Alors, elle a commis adultère. Et lorsque l'épouse de Jésus-Christ laisse des dogmes et des credos humains prendre la place de la parole de Dieu, elle commet adultère. Jésus n'a-t-il pas dit, quiconque regarde une femme a déjà commis adultère avec elle dans son cœur? Regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle? Pourquoi? Il l'a laissé entrer dans son esprit, dans le sein. Cela met les choses en marche. Satan est entré. Nous étions ensemencés par la parole. Un jour, j'appellerai la vie dans la terre et je la formerai à nouveau. Je remplirai la terre. Où Ève a failli, Marie l'a fait. Elle prit la parole. Ève prit le mensonge de Satan. Marie prit la parole de Dieu. Et au travers de la semence de Marie, il remplit la terre de nouveau au travers de son épouse. Au travers de la parole, elle produira le millénium. Au travers de cela, la parole est annoncée et la parole est plantée dans chaque cœur prédestiné. Ensuite, l'esprit descend à la rose. Ils ne peuvent pas mourir. Je le ressusciterai au dernier jour. Oh, frères et sœurs, c'est réel. Qu'est-ce? L'intelligence est le sein de l'esprit. Pour faire quoi? Pour faire entrer ou sortir. C'est ainsi qu'elle commet adultère. En laissant l'esprit de Satan mettre en elle quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Alors, elle commet adultère. Ève reçut, écoutez ceci, la mauvaise semence parole, le mensonge de Satan, au lieu de la parole de Jéhovah. Le résultat fut la mort. Nous allons terminer sur ce sujet dans quelques minutes. Et je veux avant bien pilonner là-dessus. Je vais sauter une page d'environ une minute. Maintenant, regardez. Ève, que fit-elle? Elle reçut la mauvaise semence. Comment la reçut-elle? En croyant le mensonge de Satan. Combien peut dire que c'est vrai? C'est sûr que c'est vrai. Elle reçut le mensonge de Satan. Qu'a-t-elle produit en faisant cela? Satan lui dit, je sais que c'est glorieux, c'est une chose merveilleuse. C'est eux qui ont été faits pour cela? Ça a effectivement été fait dans ce but. Oh, vraiment? Oh, c'est agréable à l'œil, c'est bon, tu devrais l'essayer. Mais le Seigneur Dieu a dit, pas encore. Nous ne pouvons pas le faire, non. Là, tu sais, oh, si nous le faisons, nous, oh, vous ne mourrez point. Le diable a la langue habile. Il n'a pas de sabot et de queue fourchue. Non, comme on essaie de vous le faire croire. C'est un roublard derrière la chair, c'est vrai. Ou un petit Ricky, avec ses cheveux peignés comme un canard, et qui est assis là-bas, sur son derrière pour faire du mal à la fille d'une mère. C'est le gars qui vient avec d'attirants petits... Oh, je ne vais pas plus loin. Maintenant, le saint, Ève, reçut la mauvaise semence parole. Maintenant, écoutez très attentivement, de l'en faire pénétrer cela à Dieu voulant. Elle reçut la mauvaise parole. Qu'est-ce qui produisit cela? Le mensonge de Satan lui disant qu'elle serait intelligente, qu'elle pourrait appartenir à la grande église, qu'on penserait du bien d'elle dans la ville, qu'elle serait comme les autres gens. C'est exactement ce que l'épouse de Jéhovah a cru. Exactement. C'est cela. Ce que Satan essaya de dire lorsque la parole vint à Marie. Mais elle se débarrassa de lui. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Il répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La parole de Dieu. Elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Tu as produit la vie. C'est cela. Savez-vous ce que Satan a dit? Ils se moqueront tous de toi. Cette jeune fille, tout colorée, ne fit pas attention à cela. Ça a directement Judas dit, vous savez, je vais avoir un bébé. Avant qu'il ait senti quoi que ce soit, parce que la parole avait déjà été placée là. C'était tout. Elle n'avait pas besoin d'aller une deuxième fois dans la ligne de prière. Oui, monsieur, elle crut cela. Elle ne sortit aucun signe de vie, elle n'eut jamais de signe de grossesse, elle ne sortit jamais rien, tout allait comme auparavant. Mais elle alla dire à tout le monde, je vais avoir un bébé. Pourquoi? Dieu l'a dit. Qu'est-ce que cela? La semence royale d'Abraham. Je veux avoir un bébé, Abraham, par cette femme. Dieu l'a dit. Mais tu me l'as dit il y a 25 ans. Je sais, mais Dieu l'a dit. C'est cela, voyez-vous? C'est la même chose. Que dites-vous aujourd'hui? Eh bien, vous savez, la dénomination vous mettra à la porte. Mais Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Et vous savez, si vous faites baptiser comme cela, eh bien, Dieu l'a dit. C'est tout, c'est tout. Voilà votre vierge, c'est cela. Pas seulement pour le baptême, mais pour tout le reste de la parole. Alors, ce qui fut à la fois physique et spirituel avec elle. Premièrement, et chaque fois, je vous ai dit et demandé, sœur, de m'excuser ce matin de mentionner cela. Chaque fois qu'une femme prend la mauvaise voie, je parle maintenant concernant Christ et l'épouse, mais chaque fois qu'une femme prend la mauvaise voie, elle doit premièrement le recevoir dans son esprit. C'est vrai. Un roublard doit la persuader et si elle l'écoute, elle le fait à l'encontre de son bon sens. Ensuite, l'acte est commis. Ainsi, premièrement, cela touche à l'esprit d'Ève et dans le sein de son esprit, elle douta de la parole de Dieu. Ensuite, va l'acte lui-même. La seule façon pour vous de naître de nouveau, c'est de premièrement recevoir la parole dans le sein de l'esprit. Et ensuite, l'esprit vient et la produit. C'est cela. C'est ainsi. C'est le véritable enseignement de l'évangile, frère. Je crois que si Saint Paul se tenait là, aujourd'hui, il enseignerait la même chose en cette heure. Très bien. Quel en fut le résultat avec elle? Une mort physique et spirituelle. C'est le résultat chez ceux qui acceptent l'autre parole, conduit dans le divertissement qu'ils ont aujourd'hui, une mort à la fois physique et spirituelle. À la fois le corps et l'esprit seront annihilés, disparaîtront. Exactement. Maintenant, remarquez, le sein de Marie, l'esprit physique, était un saint vierge. Pourquoi? Elle crut la parole de Dieu. Peu importe combien les autres critiquaient et tout ce qu'ils disaient, ça n'a rien à voir avec cela. Elle croyait malgré tout la parole de Dieu. Oh, je souhaiterais que cela porte. Le saisissez-vous? Premièrement, ce fut dans son esprit. Avant que l'acte ait lieu littéralement dans son sein, l'acte dut avoir lieu premièrement ici pour laisser l'esprit entrer et faire le fait du travail. Avant que la réelle naissance spirituelle puisse avoir lieu, la parole doit premièrement se trouver dans votre esprit. Vous la croyez. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle elle ne vient point en jugement au travers de la période de tribulation, mais il est passé de la mort à la vie. C'est cela. Maintenant, remarquez. Son sein était vierge. Son esprit était vierge. Pour croire la parole de Dieu. Très bien, vous dites. Regardez ici. Oh, frère Branham, cela ne pouvait pas être ainsi. C'est impossible. John Wesley l'aurait vu. Un tel l'aurait vu. C'est sûr. Le diable aurait pu dire la même chose à Marie. Qui es-tu? Tu es la plus pauvre de la ville. Tu n'es rien d'autre qu'une gamine de 16 ou 18 ans qui porte l'eau de ce puits. Ton père est mort et ta mère est une vieille femme aveugle. Comment vas-tu? On nous a dit qu'Anne était ta mère. Comment au monde vas-tu avoir? Écoute. Ma vieille mère est une aveugle. Mais c'est une femme pieuse. Par ses lèvres, elle a planté une semence dans mon cœur. J'ai lu dans la parole de Dieu que Dieu a dit dans Ésaïe 9:6, une vierge concevra. Alléluia! Pouvez-vous voir la parole devenir chair? C'est cela. Dieu va avoir une église. Elle naîtra de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu vivante. Le croyez-vous? Comment le sais-tu? Eh bien, cela va, tu sais comment on va t'appeler depuis ce moment? Tu seras appelé. Peu m'importe comment on l'appelle. Cela n'a rien à voir. Que me soit fait sur la parole du Seigneur. Oh, tous pourraient-ils dire cela aujourd'hui? Oh, si les gens, si nous tous pouvions vraiment dire cela dans notre cœur, qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Oh, et qu'ils le pensent vraiment. Il y en a un ou deux quelque part qui sont prédestinés, qui le saisiront et le penseront vraiment. Et frère, vous allez voir des étincelles jaillir immédiatement. C'est vrai. Lorsque vous avez vraiment cela pour rencontrer ce qui vient, lorsque cette irrigation commence à tomber sur cette parole. Oui, monsieur. Maintenant, qu'était-ce? Le sein de l'esprit était vierge. Et le sein était vierge pour le bébé. Résultat, la vie éternelle. Ève était une femme bonne. Elle était vierge. Mais premièrement, elle laissa le doute entrer par la parole. Un mensonge du diable. Que fit-il? Il l'a mis en contact de la mauvaise manière. C'était son enfant? La mort. Marie. Un esprit vierge, un saint vierge, lorsque le diable essaya de la tenter, qu'il l'ange vint vers elle et lui dit, tu vas avoir un bébé. Ensuite, Satan lui dit, maintenant, tu ferais mieux de ne rien dire à ce sujet. L'ange a dit, c'est un acte de Dieu. Et sans doute, elle pense à Ésaïe 9:6, elle dit, voici la servante du Seigneur. Et en plus, le résultat, une naissance virginale. La parole éternelle était en elle. Elle produisit la vie éternelle. Très bien. L'épouse de Jéhovah mélangea la semence. Que dites-vous maintenant, frère Branham? Ce matin, vous avez dit que l'épouse de Jéhovah a commis adultère. Je ne vais pas le laisser de côté. Maintenant, observez très attentivement. Nous en avons encore pour une heure, je pense. J'ai quelque chose ici. Je devrais en sauter quelques-unes et commencer à lire dans quelques minutes. Je lirai aussi vite que possible pour pouvoir le donner. Encore une heure, je crois, et nous sortirons. Si vous pouvez me supporter, restez avec moi. Maintenant, où l'épouse de Jéhovah a-t-elle mal agi? Bon. Qu'envoya Jéhovah à son épouse en Égypte? Il promit à Abraham que son épouse, la semence, séjournerait en Égypte pendant 400 ans. Est-ce vrai? Le temps arriva pour que la parole s'accomplisse. Sommes-nous dans le temps où la parole doit s'accomplir? Pour être délivrée et sortir. Bon. Comment ressortir la parole? Ont-ils formé une organisation, un groupe d'hommes, de prêtres, s'est-ils rassemblés? Ont-ils dit, frère, nous allons voter ici, et si cela passe à l'unanimité, nous aurons une organisation, appelée les pharisiens, et au travers d'elle, Dieu va agir. Dieu ne fit jamais une telle chose. Non, jamais. Que leur envoya-t-il? Un prophète. Et la parole du Seigneur vint au prophète. Et il suscita un prophète parmi eux. Loigné, elle le confirma au milieu d'eux, à la vue de tous les autres démons à l'œuvre. Par des miracles et tout le reste. Parce que Moïse, resta avec la parole. Il prit ses gens et il partit avec cette foule mélangée. Alors qu'il s'approche de la terre promise, c'était sa chère épouse commise adultère avec Moab. Maintenant, dites-moi ce qu'elle nous a passé. Comment le fit-elle? par le moyen d'un prophète qui montait et qui était contre la parole de Dieu. Pourtant, il avait tous les signes et tout le rituel, et c'est aussi spirituel que Moïse. Regardez, écoutez attentivement maintenant. Ici se trouve dans un camp Israël, qui est interdénominationnel. C'est vrai. C'était, ils avaient un prophète roi avec eux. Ils avaient une colonne de feu et un rocher d'où sortait de l'eau pour les désaltérer. Tout allait bien pour eux. Et observez, ils avaient sept autels. C'est parfait. Sur ces autels se trouvaient sept animaux purs. Des béliers. Et un bélier représente la venue de Christ. Moab, qu'arriva-t-il chez lui? Lorsque Balaam y alla, il construisit sept autels, exactement comme eux. Ne parlez pas d'eux du point de vue fondamental, car vous feriez mieux de savoir de quoi vous parlez. Jésus a dit que cela séduirait presque les élus. C'est révélé spirituellement. Vous saisissez la parole et vous voyez la parole rendue manifeste. Regardez. J'étais ici et là était Moab. Sans doute, il était un évêque, un grand homme. Et il construisit sept autels. Il met dessus sept béliers, montrant qu'il croyait à la venue d'un Messie. Frère, c'était question de fondamentalisme, Dieu devait reconnaître les deux. Lorsque Caïn bâtit un autel au Seigneur, lorsque le fils de Satan bâtit un autel au Seigneur, il bâtit le même genre d'autel qu'Abel. Les deux adorèrent, les deux allèrent à l'église, les deux payèrent leur dû, les deux se soumirent à leurs obligations, ils allèrent adorer le même Dieu, mais l'un fut reçu et l'autre fut perdu. Comment est-ce possible? Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. L'église catholique dit, il y a un rocher sur lequel l'église est bâtie, et Pierre est ce rocher. L'église catholique dit que Pierre est enterré là-dessous. C'est un mensonge. Ils disent que Pierre s'enterrait là-bas, mais que je sache, la Bible dit qu'il était à Jérusalem. Il n'est jamais allé là-bas. Malgré cela, ils disent qu'il y a été. En vérité, il n'est pas fait mention que Pierre était là-bas, mais c'est l'histoire. Mais ils disent que Pierre, laissez-le être enterré là. S'il était, quelle différence cela ferait-il? Ce n'est pas ce dont Jésus parlait. Voyez-vous, comme ils ont mélangé la chose matérielle, les protestants disent, non, Jésus a dit qu'il était le seul. Maintenant, il l'a jamais dit. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Que le Christ, le Fils de Dieu, la chair et le sang, n'a jamais appris par un séminaire. Une dénomination ne t'a jamais enseigné ceci, mais c'est mon Père, qui est dans les cieux, qui te l'a révélé, et sur cette pierre, la vérité spirituelle révélée de la parole de Dieu, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Moab fit la même chose. Il descendit là-bas et enseigna les enfants d'Israël. Il dit, regardez ici, mes amis. Ils ont fait la même chose dans la Pentecôte. Maintenant, regardez. Regardez ici, ne sommes-nous pas tous les mêmes? Ne croyons-nous pas le même Dieu? Nous sommes tous les mêmes. Les enfants de Moab étaient les descendants de la fille de Lot. Voyez-vous? Comme ils échappèrent tous, il y a toujours un cheveu dans la soupe. Voyez-vous? Ils étaient là-bas, ils avaient... Elle dit, regardez ici, vous savez que nous sommes tous les mêmes. Combien savent que c'était les enfants de Lot? C'est sûr. Leur propre père, un adultère. Ils dirent, nous sommes tous les mêmes. Vous savez, vous les méthodistes et vous les baptistes et vous les presbytériens et les autres, je veux un peu de votre huile. Nous sommes tous les mêmes. Et que firent-ils? Ils se marièrent entre eux. Et c'est ce que fit la Pentecôte aux protestants. Elle se maria dans la fédération des églises. Elle devint une dénomination. Et où est-elle? Au même point qu'Israël. Elles furent renvoyées à la fois pour une fornication spirituelle et une fornication littérale. Dieu la refusa depuis ce moment-là. Même si ses enfants, qui devinrent les Samaritains, furent maudits. Est-ce vrai? Assurément. Jéhovah la renvoya. L'épouse de Christ fit la même chose. Elle mélangea sa semence avec les dénominations et renvoya Christ, son mari. Et vous, pentecôtistes, lavé à sec, que se passe-t-il avec vous? Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, nous voyons de la prophétie que Jésus-Christ est hors de sa propre église, de cet âge de l'Odyssée, frappant la porte et essayant de rentrer. C'est l'image la plus émouvante de la Bible. Que dit-elle? et c'est la prostitution. Lorsque Jésus revient, pourquoi frappe-t-il? Jésus revient pour recevoir son épouse. Et lorsqu'il va frapper à la porte, il peut laisser dehors. Vous ne pouvez pas entrer ici. Vous ne pouvez pas tenir de réveil. Faites-moi voir vos papiers d'ordination. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu, le Dieu véritable, parole de Dieu, la parole rendue manifeste de son ministère, il n'y a rien que vous puissiez dire contre lui, immoral ou autre. Qui peut l'accuser de cela, que vous venez au travers d'une dénomination? Oh, il n'est pas unitaire, il n'est pas des assemblées, il est trinitaire, il n'est pas trinitaire, il est des assemblées. Vous, pauvres, illégitimes. Honte à vous! Dieu à l'extérieur! Mais qu'a dit Jean, ce dernier messager avant sa venue? Il peut, de ses pierres-ci, susciter des enfants Abraham. Ne venez pas en disant, nous appartenons à ceci, nous appartenons à cela. Dieu peut, de ses pierres, susciter des enfants Abraham. Très bien. Continuons maintenant. Oh, combien j'aime ceci. L'épouse de Christ, de même que l'épouse d'Adam, et toutes les autres, mélangea la semence, et mit Christ dehors pour prendre sa dénomination. Assurément, elle le fit. Certainement, elle le fit. Elle refusa Dieu, son futur mari, comme Ève, et accepta livrer de la mort et le mensonge de Satan comme résultat d'une église morte et formaliste, infidèle. Maintenant vous montez, dites c'est un mensonge. Où en sont les pentecôtistes? Ils sont plus formalistes que les baptistes. C'est sûr. Vous savez quoi? Cela ressemble à une vilaine image maintenant, n'est-ce pas? Mais que dit Joël dans Joël 2:25? Mais je remplacerai, dit l'Éternel. De même qu'Adam trouva sa femme enceinte par la semence de mort venant du mensonge de Satan qu'elle avait accepté, Joseph trouva sa femme enceinte de la semence de Dieu dont elle avait accepté la parole. Que signifie tout cela? Que suis-je en train d'essayer de vous faire comprendre? Vous, qui êtes sur les ondes, dans vos voitures et dans le tabernacle, voyez-vous pourquoi je suis resté avec la parole et pourquoi je me suis élevé contre cela? Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre ces hommes ou ces femmes. Je n'ai rien contre eux. Mais je ne peux pas continuer sur cette base. Oh, je suis navré pour vous. D'abord, pour votre faiblesse. C'est vrai. Où est votre foi en Dieu? Ils m'ont dit la même chose. Assurément. J'ai travaillé 17 ans avant que Dieu me fasse sortir et m'aide.
Je ne peux pas le faire, parce que c'est faux. J'ai une écriture ici que j'aimerais mentionner à propos de Jésus et sa tentation. Satan lui dit, je te donnerai tous les royaumes du monde, ils m'appartiennent. Voyez-vous, ce fut la même chose lorsqu'il vint des rêves, en changeant le pain, au sujet du manger, etc. Je ferai tout ceci si tu m'adores. Viens simplement te joindre à notre groupe. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce? Certains d'entre vous, prédicateurs, avez bien trop peur de prendre position. Vous craignez même qu'on ne vous laisse plus entrer dans l'organisation. Alors qu'allez-vous faire? Vous mettre à la porte? Oh, je suis navré pour vous. D'abord, pour votre faiblesse. C'est vrai. Où est votre foi en Dieu? Ils m'ont dit la même chose. Assurément. J'ai travaillé 17 ans avant que Dieu me fasse sortir et m'édifie autour de ceci. Ensuite, je pensais, Satan, tu peux venir maintenant. Voyez où ça en est? Lorsque vous réalisez vraiment que Dieu vous a révélé la vérité à ce sujet, alors rien au monde ne peut vous dissuader. C'est tout. Vous êtes absolument invincible. Pas vous, mais Dieu qui est en vous. Pas Christ, mais pas le corps, mais la parole qui était en lui. Pas Marie, mais la parole qui naquit d'elle. Ainsi, de quoi vivra l'homme? Pas de son pain quotidien, mais de la parole de Dieu. Pas de votre organisation qui vous fournit une place. Eh bien, montrez-moi vos titres. Avez-vous une bonne situation? Je dois vérifier cela. Eh bien, oui, vous pouvez être classé environ 100%. Nous pourrons vous garder quelques jours, à l'occasion de ce réveil. Là, nous éprouverons vos connaissances et verrons un peu de quoi vous êtes capable. Oh là là! Comment Dieu peut-il agir dans un groupe pareil? Deux fois mort, arraché par les racines, déraciné, pourri et tout le reste. Oh là là! En voilà un autre. Oh, mes amis, que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi. Je ne peux rien croire d'autre que la parole de Dieu, et je veux qu'elle soit ma vie, tout ce que je suis. Je veux que vous fassiez la même chose, que vos pas, vos conversations, vos actions, tout ce que vous faites, soit dans la parole de Dieu. Que la bonté de Christ vienne en vous, et vous serez fécondés par la parole. Si vous ne le faites pas, si vous laissez la pensée des dénominations entrer, vous serez fécondés par les dénominations. Si vous laissez la pensée de Christ entrer en vous, il ne peut nier sa propre parole, parce qu'il est Dieu. Vous serez fécondés par la parole, vous la croirez. Peu importe si vous le mettez dehors, vous chassez, que chaque porte se ferme devant vous. Vous irez de l'avant de toute manière. Amen. Je dois me dépêcher. Oh, Christ prend maintenant une épouse pour la féconder avec sa propre semence parole, de son saint spirituel et de son esprit. Il ne mélangera pas d'ordure dénominationnelle avec cela. Elle est vierge pour lui. Oh, je me souviens d'être resté assis dans une chambre pendant 3 jours et d'avoir prié et jeûné en m'attendant au Seigneur. Lorsque cela me frappa, je pensais, « Oh, qu'est-ce que cela ? Me voilà engagé dans cette affaire. Eh bien, si j'apporte cela à l'Église, que deviendrai-je ? À coup sûr, je les aurai sur la corde raide. Que puis-je faire ? » J'ai vu l'Église et chaque type, ombre ou autre, ce qui montre bien qu'elle est finie. « Que ferez-vous ? » Et ensuite, je pensais à cette parole, « Je remplacerai, dit le Seigneur, je remplacerai. Soumets-vous de vieux pain, lorsque le feu le touche et le consume, il a réussi malgré tout à faire tomber une semence. Et cette semence produit un nouvel arbre, c'est vrai. Les vieux arbres sont consumés par l'organisation et tout le reste, mais il y a toujours une semence de la parole de Dieu qui viendra et se reproduira, assurément. Oui, cela ne manquera pas. Mais Christ, nous croyons que nous sommes dans les derniers jours, n'est-ce pas ? Savez-vous qu'avant que vous puissiez avoir une récolte, vous devez d'abord planter une semence ? Voyez-vous pourquoi je laissais les églises me mettre dehors et me mépriser, m'appeler de toutes sortes de noms, et que malgré cela, je suis resté exactement avec cette parole ? Voyez-vous ? Il y a une plante. La semence a été plantée. Elle a déjà été plantée, mes amis. C'est déjà fait. Je peux dire maintenant, c'est terminé, c'est vrai. Elle a été plantée, oh oui. C'est aussi le cas pour la semence dénominationnelle et toutes les autres. Par exemple, notre cher frère Billy Graham a dit une fois, ici à Louisville, il prit la Bible et dit, Paul pouvait aller dans une ville, y tenir un réveil et avoir un converti. En retournant l'année suivante, il en trouvait 60 à cause de lui. Mais dit-il, je peux aller quelque part tenir un réveil de 6 semaines et après avoir 20 000 convertis, mais lorsque je reviens 6 mois plus tard, je ne peux pas en trouver 20. Qu'est-ce ? Ils ne sont pas convertis. Ils sont simplement convertis au dénominationalisme. C'est tout. Si vous plantez une semence dénominationnelle, c'est certainement ce que vous obtiendrez. Maintenant, venez frère, joignez-vous à l'église, mettez votre nom sur le livre, c'est tout ce qu'ils connaissent, c'est vrai. La Pentecôte a fait la même chose, ils parlent en langue, etc. C'est tout ce que vous avez à faire, cela suffit. Venez, joignez-vous à l'église, très bien, faites votre faux baptême et continuez. C'est tout ce que vous avez à faire, voyez-vous? Mais lorsque Christ revient, il revient pour chercher une vierge, une église qui n'a pas, même pas une seule tache ou une ride de dénomination ou d'autre chose, et le dogme mélangé avec elle. Elle sera la parole et elle seule. Maintenant, oh, nous y sommes. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, nous arrivons au corps qui doit être l'épouse de Christ, pour être chair de sa chair et haut de ses os. Maintenant, nous allons le dépêcher. Chair de sa chair et haut de ses os. Pourquoi ? Je vous pose une question. Pourquoi toutes vos pluies n'ont-elles pas amené l'épouse à Christ ? Je veux que vous me répondiez là-dessus. Si c'est là le résultat, le terme est passé, nous croyons cela. Comme ce fut le cas au jour de Noé, la patience, il prépare son épouse. Pourquoi ces pluies ? Pourquoi vous les pentecôtistes ? N'avez-vous pas, il y a quelques années, lorsque vous avez commencé, il y a 40 ou 50 ans, pourquoi n'avez-vous pas amené Christ, l'époux, à l'épouse ? Je vais laisser cela pénétrer une minute. Pourquoi ? Parce que vous l'avez fécondé vous-même avec vos dénominations. C'est exactement ce que vous avez fait. Il n'épousera pas une prostituée. Il épousera une vierge. C'est direct, mais c'est la vérité. Vous le savez maintenant, sans détour. Vous n'avez pas à vous poser de questions. Je n'hésite pas à dire cela, car c'est la vérité. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Pourquoi n'avez-vous pas amené Christ vers elle ? Parce qu'elle n'est pas convenable. Il la trouva dans l'adultère. C'est la raison pour laquelle les enfants ne vivent pas pour toujours lorsqu'ils naissent. Adam trouva sa femme enceinte. C'est la raison pour laquelle Jéhovah dut prendre une épouse parmi les gentils. Il la trouva enceinte. C'est exactement ainsi que Christ trouve son épouse maintenant. Il trouva ce soi-disant groupe enceint. Il va semer sa semence. Quelqu'un va la recevoir parce qu'ils sont prédestinés à être l'Église finalement. De même que celle d'Adam et celle de Jéhovah, il les trouva enceintes de doctrines humaines, de dénominations. Comme le dit la vérité de Dieu de Genèse 1, chaque semence a produit selon son espèce. Ainsi, lorsque l'Esprit tomba sur elle, l'homme avait été dans son sein, elle avait rempli de semences dénominationnelles de sa propre pensée. C'est pourquoi elle devint comme elle, et maintenant, Christ ne put pas aller vers elle. C'est dur, n'est-ce pas? Un jour, j'étais à Christmill. J'avais prié pendant environ 2 jours. Il y a de cela de nombreuses années. Puis je suis allé à Mishawaka. Je n'ai jamais dit ceci sur moi auparavant. Je suis allé à Mishawaka. Vous souvenez-vous du garçon de couleur? Je n'avais trouvé les pentecôtistes. Je n'avais jamais su qu'il y avait quelque chose comme cela. Je suis allé là-bas, je les ai trouvés. Je pensais que c'était des anges. Je les vis, entre autres, parler en langue. Je n'avais jamais entendu parler auparavant. Ils étaient là, qui couraient de long en large, tout en parlant en langue. Je pensais, oh, c'est merveilleux. Il y avait le vieil UPC et le PA de VW et tous les autres. C'était à l'époque de la ségrégation entre les blancs et les gens de couleur. Ainsi, ils devaient avoir leur convention dans le Nord. C'était à Mishawaka, dans l'Indiana. Oh là là, j'avais $1.75 dans ma poche, avec moi, c'est-à-dire juste assez pour rentrer à la maison. J'utilisais 5 cents pour acheter quelques petits pains vieux d'environ 2 ou 3 jours, puis j'allais me chercher un pot d'eau à l'hydrant. J'allais ensuite dans un champ de maïs, j'enlevais les sièges de ma vieille Ford et les posais par terre. Dans cette nuit-là, j'ai bien repassé mes pantalons et mon vieux maillot de corps. Le matin suivant, je retournais là-bas. Je ne voulais pas manger avec eux. Ils m'avaient bien invité, mais je ne voulais pas manger avec eux, car je ne pouvais rien mettre dans leur offrande. Ainsi, j'allais pouvoir savoir plus. Ce jour-là, ils dansèrent, piétinèrent et chantèrent dans l'esprit. Je pensais, oh, cela paraît bien. Un homme se levait et parlait en langue, et un autre en donnait l'interprétation. Et frère, c'était bien ainsi. Ils appelaient les gens dans l'auditoire. Je pensais, oh frère, c'est merveilleux. Dites à Mademoiselle Jones ou à telle personne de venir immédiatement, car le Seigneur l'appelle. La voilà qui vient, c'est vrai. Ensuite, celui-ci parlait en langue, et l'autre interprétait. Je pensais, oh là là, le millénium est sur le point de commencer, c'est cela. Oh, si je pouvais seulement serrer la main de ces hommes pieux. Une fois dehors, j'allais vers l'un d'eux. Ils ne me connaissaient pas. J'étais un jeune homme sans importance. Ainsi, je fis le tour de l'église pendant qu'ils avaient une petite pause, et après un moment, je rencontrais l'un d'eux, lui serrai la main et lui dis, « Comment allez-vous, frère ?»« Maintenant, vous savez que Dieu m'a donné un petit don pour découvrir certaines choses, quand il veut que je les sache. » Je pensais, « Si je pouvais le faire parler, lui faire dire quelque chose, je saurais si c'est effectivement véritable ou pas. » Je vis qu'il semblait être un des responsables. Je lui serre la main, « Comment allez-vous, frère ?» Et répondit, « Eh bien, et vous ?» Je lui ai parlé un peu avec lui, et je vis que c'était un vrai chrétien. Il l'était, et je pensais que Dieu soit loué. Plus tard, alors que je passais le coin, je rencontrais l'autre homme, et je dis, « Comment allez-vous, frère ?» Et je commençais à parler avec lui. S'il m'est arrivé de parler en hypocrite, c'en était bien. Il avait des cheveux noirs, et avait un bébé d'une femme blonde. 2 bébés même, d'une femme blonde. Je le vis dans une vision, juste devant moi. Je pensais, « Eh bien, maintenant, je suis vraiment troublé. Comment ce même esprit peut-il être sur un homme pieux et sur un démon, un hypocrite ?» Oh Dieu, je ferais mieux de laisser cela, je ne sais pas. J'avais seulement 19 ou 20 ans. Je pensais, je ferais mieux de laisser cela tranquille. Je ne sais que penser. Au monde, comment cela se peut-il? Je ne peux rien dire à ce sujet, je ne peux rien dire contre cela, mais je sais que cet homme est faux. J'ai observé que c'était le même esprit et que lorsqu'il tombe, il y a le même résultat. Je pensais, il y a quelque chose de faux quelque part, c'est tout. Je dis à cet homme, il dit, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Je dis, je ne crois pas que j'ai ce que vous avez. Il dit, gloire à Dieu. « Avez-vous déjà parlé en langue ?» Je répondis, « Non, monsieur. » Il dit, « Alors, vous ne l'avez pas. » Je répondis, « Eh bien, je ne pense pas, voyez-vous. Ceci est nouveau pour moi. Je n'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu parler non plus. » Il dit, « Eh bien, entrez et recevez-le, c'est pour vous. » Je répondis, « Merci, monsieur. » Et je pensais, « Frère, je ne veux pas ce que vous avez. » Je pensais un moment et ensuite je partis. Ce soir-là, j'allais dans les bois et je pensais, « Oh, Dieu, sois miséricordieux. » Je retourne à la maison et je rentrais. Je ne pouvais rien dire ni pour ni contre. Une fois, j'étais là-bas à Grimsmill, dans ma petite caverne où vous savez que je vais toujours. J'étais là-bas pour quelque chose d'autre. Il y avait 3 ou 4 jours, j'étais là-bas dans le jeûne et la prière. Comme cela sentait le moisi dans la caverne, je sortis un moment cet après-midi-là, il faisait beau et le soleil brillait. Un vieux tronc était tombé juste en dessous, en direction du ruisseau, et je m'assis dessus en me frottant les yeux. J'avais été dans cette sombre caverne pendant un certain temps. Je posais ma Bible et je pensais, « Eh bien, je crois que je vais lire quelque chose dans la Bible. » Et je m'appuyais contre ce tronc pour me reposer. J'étais couvert de poussière. Et quand je pris ma Bible pour commencer à lire, elle s'ouvrit à Hébreux chapitre 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont une part au Saint-Esprit et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Et la pluie qui tombe souvent sur la terre, elle participe à la bénédiction, mais si elle produit des épines et des chardons, les retrouver, et on finit par y mettre le feu. Je pensais, qu'est-ce que cela peut bien être? Stop! Qu'est-ce que c'est là? Oh, je pense que c'est... J'étais là-bas pour prier pour quelque chose d'autre. Je posais de nouveau ma Bible et je dis, eh bien, je vais l'ouvrir et lire un passage. Et le vent souffla, et elle s'ouvrit à nouveau à la même place. J'étais dans l'Ancien Testament, et le vent tourna de nouveau les pages jusqu'à Hébreux chapitre 6. Je regardais de nouveau, et c'était là. Je la ramassais, et de nouveau, c'était la même chose. Eh bien, pensais-je, deviens-tu superficieux, Bill? Je pensais, eh bien, je vais lire ici, et je commence à lire. Mais rien ne m'intéressait, je pensais, eh bien, je crois que je vais simplement lever les mains et louer le Seigneur. Je posais la Bible comme cela, lever les mains pour louer le Seigneur. Alors que je levais les mains, le vent souffla. À ce moment-là, je baissais les yeux, Hébreux 6. Je le lis de nouveau, je pensais, que veut dire cela? Je ne comprends pas. J'avais oublié les pentecôtistes. Je pensais, que veut dire cela? J'étais assis là, je pensais, y a-t-il là quelque chose, Seigneur? Voyons, je crois en l'élection, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu une part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la parole de Dieu, c'est là ce croyant limitrophe qui vient jusque à la chose réelle pour ensuite retourner en arrière, comme ceux du temps de Josué. Josué et Caleb passèrent de l'autre côté, mais ceux-ci restèrent limitrophes. Ils goûtèrent, et vers les bonnes œuvres de Dieu, ensuite les refusèrent. Des gens viennent tout le temps à l'église et disent, « Je crois cela, frère Branham. » Mais ils ne vont jamais, font jamais un pas en avant. Voyez-vous, il est impossible de passer de l'autre côté. Ainsi, on vient à cet endroit à m'entendre prêcher aux femmes qui ont des cheveux courts. L'année suivante, vous les retrouvez avec leurs cheveux coupés. Vous leur prêchez, et elles continuent à faire la même chose. Vous voyez, ce sont des croyants limitrophes. Vous les entendez dire, « Oh oui, je crois que c'est juste. » Je dis, « Bien sûr, je crois cela. » Mais lorsque j'arrive à cet endroit, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et on finit par y mettre le feu. Je pensais, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne saisis pas. Alors que j'étais assis là, je pensais, oh Dieu, si c'est quelque chose que tu veux que je sache, je suis ici, attendant une vision de toi, Seigneur, pour savoir que faire au sujet d'un ministère là-bas. Je demande de me le dire, Père. Je regardais, et en travers de la vallée qui va vers, j'étais bien au-dessus de Charleston, qui allait vers Newmarket, dans cette direction, par-dessus la colline. Je regardais et je vis comme un arc-en-ciel qui se tenait sur la vallée. Et au travers de cet arc-en-ciel, je vis quelque chose qui tournait. Je regardais et c'était le monde. Et je vis un homme habillé de blanc qui s'en allait. Beaucoup d'entre vous êtes trop jeunes pour connaître ça. Vous souvenez-vous lorsque nous répandions la semence à la volée? Nous avions alors un grand sac sur le côté et nous la jetions avec la main. Monsieur Wood, vous souvenez-vous? Nous répandions la semence à la volée, comme ça. Nous la prenions dans nos mains pour la répandre, laissant au vent le soin de la déposer plus loin dans la terre. Alors, je vis un homme, habillé de blanc, qui s'en allait, répandant la semence. Je l'observais comme il s'en allait et suivait la courbe de la terre. Je pensais, je me demande ce que cela signifie. Et ensuite, je regardais. Aussitôt qu'il eut le dos tourné, voici qu'arriva un fin roublard, qui épiait tout autour de lui. Il avait un sac plein et se met de livrer derrière le premier. Il fit le tour de la terre. Il regardait toujours, et se glissait furtivement, vous savez, en la jetant comme ceci, et il fit le tour de la terre. Ensuite, je vis la semence pousser, du blé sorti, de même que des mauvaises herbes, de celles qui collent, puis des épines et des chardons. Les deux croissaient ensemble. Une grande sécheresse s'arriva, et je vis cette petite plante de blé qui tenait sa tête de côté, faisant « mourant faute d'eau ». Puis je vis la jeune pousse d'ivrée avec sa tête de côté qui faisait mourant faute d'eau. Tout le monde commence à prier pour demander de l'eau. Et tout à coup, la pluie arriva en réponse à la prière. La pluie commença à tomber sur la terre. Aussitôt que cette eau frappa la terre, cette petite plante de blé sauta en l'air et dit « Gloire, gloire, gloire !» De même, la mauvaise herbe sauta et cria « Gloire, gloire, gloire !» Je pensais, Maintenant, que signifie cela? Que ce blé pousse des cris, je peux comprendre. Mais qu'en est-il de cette mauvaise herbe? Ensuite, il dit, Hébreux 6. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. C'est là le problème. C'est pourquoi nous n'avons pas eu d'épouse prête à recevoir Christ. Nous avons semé des semences dénominationnelles à la place de la parole. Qu'est-ce que cela a produit? Cela a produit davantage d'enfants dénominationnels. C'est vrai. Mais au milieu de cela, du blé est tombé. C'est vrai. Regardez, le même esprit qui fait que le réel, véritable et authentique croyant parle en langue, le véritable esprit qui fait un chrétien d'un authentique croyant, parce que cela irrigue une parole, une semence, ce même esprit lui fait un substitut hybride, comme Ève. Cela fait que l'hybride est aussi heureux, aussi désireux de crier, aussi joyeux à ce sujet que les autres. Mais quelle est la vérité là-dessus? La semence est fausse au départ. Ainsi, toutes vos démonstrations charnelles ne signifient rien du tout. Que je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Que j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Que je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Que je parlerai les langues des hommes et des anges, je ne suis qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Voyez-vous, ce n'est rien. Écoutez, les pentecôtistes, ce n'est rien. Pourquoi? C'est une semence hybride. Elle ne peut pas venir à la parole. C'est cela. Le corps qui donne naissance au corps de Christ, de nouveau, doit être venir d'un saint vierge. La parole. C'est vrai. C'est pourquoi, écoutez ceci, c'est pourquoi elle en a produit 1 million de plus en 44. C'était un slogan baptiste. C'est pourquoi les dénominations pentecôtistes n'ont pas pu donner de naissance spirituelle pour produire les manifestations de Christ. Servant seulement à semer, cette pluie a produit une église dénominationnelle. Elle a fusionné avec les grandes églises évangéliques. Elle a suivi la voie de Corée. Elle a rejoint les dénominations. Voilà pourquoi. Retournons dans l'Ancien Testament pour y trouver quelques types. Et ensuite, je commencerai quelque chose dans quelques minutes, puis je vous laisserai partir. Retournons dans l'Ancien Testament pour trouver des types qui prouvent ces choses. Ainsi, j'ai pris plusieurs heures pour présenter ceci. Maintenant, nous allons changer de sujet, changer de programme. Premièrement, j'ai quelque chose. Lorsque j'arrive à... J'ai ici quelques pages et ensuite je dois... Oh là là. Sûrement, pas autant que ça. Je dois vraiment me dépêcher. Maintenant, je vais lire. Voyez-vous, aussi vite que possible, parce que je sais que nous n'avons plus que très peu de temps. Maintenant, êtes-vous fatigué? Non? Alors, viens-moi. Allez de l'avant, ça ne fait rien. C'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces choses. Maintenant, si tout ce que je vous ai dit ne concorde pas avec la Bible, la parole de Dieu, c'est faux. C'est faux. Et toute cette situation... Je vais me dépêcher pour la suite, sans l'expliquer, afin que nous puissions arriver au bout. Je vous promets que j'irai aussi vite que possible. J'étais arrivé au point où j'étais tellement dans l'esprit, je réunis l'Église pour lui montrer, lui prouver par la parole exactement ce qui était arrivé tout au long, et que cela arriva, je pensais, « Seigneur, les gens sont là, maintenant, que puis-je leur dire ?» Je ne peux pas prédire le futur, je ne peux pas leur dire ce qu'il faut faire. Alors, que ferais-je? Je les laisserai simplement sur la corde raide. Et je levais les mains, je dis, « Oh Dieu, il me semble que j'agis selon ta volonté. » Je n'ai jamais fait ceci auparavant, parce que la semence n'avait pas encore été plantée. Je crois que c'est maintenant le moment pour moi de le dire. Mais que vais-je faire? Et aussi distinctement que vous pouvez entendre ma voix, quelque chose me dit, « Prends ta plume. » Je vous le lirai dans une minute. Et lorsque j'ai terminé, la réponse était là. Je ne savais même pas ce que j'écrivais. J'ai simplement commencé à écrire. Et lorsque j'ai terminé, je posais la plume. Je levais les yeux et dis, « Oh Dieu, sois miséricordieux, c'est exactement cela. » C'est ce que j'attendais. Maintenant, il y a quelque chose, certaines choses, que j'ai dû laisser de côté. Nous y viendrons dans un petit moment, Dieu voulant. que l'Ancien Testament contient des types qui pointent vers Christ et son Église. Croyez-vous qu'Adam et Ève représentaient Christ et son Église? Croyez-vous que Jéhovah et sa femme représentaient Christ et son Église? Eh bien, ils sont des types, et que ceci soit l'antitype, il doit être comme le type, parce que l'antitype relève du type. Christ est la tête, la véritable pierre de Dieu. Croyez-vous cela? La véritable parole, l'épouse et le corps. Voulez-vous quelques passages de l'Écriture sur ces points, afin que vous puissiez les lire? Je voulais lire les Écritures, mais je ne le ferai pas. 1 Pierre 2, 1 à 6, Ephésiens 5, 22, voyez-vous. 1 Pierre 2, 1 à 6, Ephésiens 5, 23. Lisez ces deux premiers chapitres. L'Ancien Testament, Christ. Regardez ici. Laissez-moi prendre ceci comme exemple. Si mon épouse n'a pas pris mon dollar, le voilà. J'ai payé des sandwichs il n'y a pas longtemps. Excusez-moi, mes amis, je ne voudrais pas parler ainsi. J'ai une bonne épouse. Maintenant, au verso de ce dollar, si ce n'était grâce à elle, je n'aurais pas ce dollar, je crois. La miséricorde de Dieu nous l'a donné, elle m'a aidé. Maintenant, au verso de celui-ci, il semble que si c'était bien là notre monnaie, le sceau américain qui est sur le côté gauche du dollar devrait être le grand sceau de notre pays. Est-ce vrai? Eh bien, pourquoi la pyramide est-elle appelée le grand sceau? Même votre monnaie doit témoigner de cela. Oui, chaque fois que vous envoyez une carte postale ou quelque chose d'autre, cela témoigne l'année de notre Seigneur 1962. Tout témoigne de Christ, voyez-vous? Avez-vous remarqué que le grand sceau, c'est la pyramide? Saviez-vous qu'on n'a jamais placé de pierre fêtière sur la pyramide? Combien savent cela? Assurément, je suis allé là-bas, en Égypte, au Caire. Je l'ai vu. Il n'y a jamais eu de pierre fêtière. Pourquoi? Elle était rejetée, la pierre angulaire. C'était la pierre angulaire qui soutenait le bâtiment. C'est une clé de voûte. Combien savent ce qu'est une clé de voûte? Lorsqu'on construit une arche, c'est la clé de voûte qui la fait tenir. La pierre angulaire est ce qui soutient le bâtiment, est-ce vrai? Et la pierre angulaire, dans la pyramide, était la pierre fêtière, c'est-à-dire la clé de voûte qui fait tenir le tout ensemble. Ainsi, la clé de voûte a été rejetée. Avez-vous remarqué ici, en haut, elle se trouve au-dessus de la pyramide. Maintenant, que représentait cela? Lorsqu'Enoch la construisit, voici ce qui arriva. C'est semblable à la progression de l'Église de l'Évangile. Regardez en bas. La partie large de la pyramide représente les premiers jours de la réforme. Simplement le fait de vous appeler un chrétien et de renier l'Église catholique voulait dire que vous étiez destiné à mourir. Ensuite, on prêcha la justification par la foi. Maintenant, observez les trois qui viennent à nouveau. Alors, vint John Wesley qui prêcha la sanctification. L'Église devient de plus en plus une minorité. Vous voyez en allant dans cette direction. Après les jours de sanctification de John Wesley, vint l'Église pentecôtiste. Et Dieu prit un reste hors d'elle, chacun acceptant la parole, voyez-vous? Lorsque cela arriva aux pentecôtistes, ce fut coupé, beaucoup plus soigneusement, parce que c'était la restauration des dons. Cela allait vers le haut, qu'est-ce? Ce qui est tout en bas se trouve loin des regards de la tête. Ici, c'est un peu plus près de la tête. Ici, c'est encore plus près, mais cela doit s'adapter absolument avec le reste. Cela doit être ajusté. Dans cette pyramide, si vous prenez une lame de rasoir, vous ne pouvez pas la glisser entre cette pierre où se trouve le mortier. Tellement c'est assemblé avec précision. On a dit que le temple de Salomon était ainsi, voyez-vous? Dieu prend les élus hors de cette église pentecôtiste, cet hybride, il les tire dehors et achève la parole en eux. Ceci doit être si semblable à la parole elle-même que finalement la parole s'alliera à la parole en nous. Voilà la pierre fêtière qui crie. Grâce, grâce exceptionnelle. La pierre fêtière. Vous êtes comme ceci, voyez-vous, sur ceci. Voyez-vous, ici tout en bas. Et cela se rapproche toujours plus, le ministère. Voilà Luther, la justification. Ils sont justifiés. Voilà Wesley, ceux qui sont sanctifiés. Voilà les pentecôtistes, la restauration des dons. De là, Dieu en prend et les affine pour leur donner un ministère, exactement comme cette parole-là, parce que cela doit s'ajuster avec la parole. Voilà l'épouse, il l'a fait monter. Donc, Christ fut manifesté pour détruire les œuvres du diable. Croyez-vous cela? Maintenant, je ne peux pas expliquer tout ceci. Je vais simplement parcourir cela rapidement et relever les points principaux, afin que vous ne restiez pas trop longtemps. Christ fut manifesté pour détruire les œuvres du diable. Est-ce vrai? Croyez-vous cela? C'est pourquoi, qu'était-il? La parole de Dieu qui détruisit les œuvres de l'hybride, le diable. Est-ce vrai? Il fut créé pour faire cela. Il vint au monde pour être cela et pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, son corps doit faire la même chose, parce que la tête et le corps sont ensemble, est-ce vrai? Si Christ, qui est la tête, était la parole, son corps doit être pareil à la tête. Est-ce vrai? Une église de la parole, née de la parole, née virginalement de la parole et non pas dénominationnelle, née virginalement de la parole. C'est par la tête que le corps fonctionne. Est-ce vrai? Mon corps ne peut pas bouger avant que ma tête lui dise de bouger. Alors que se passe-t-il si ma tête est faite de chair et que mon corps soit en béton? Il ne peut agir. Sa tête peut dire « bouge, 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 bouge », mais il n'y a rien pour recevoir le message. Est-ce vrai? Eh bien, si ma tête est Christ et que mon corps soit une dénomination, comment cela va-t-il marcher? Comment la pureté et une prostituée peuvent-elles travailler ensemble? Oh, j'aime ceci, frère. Laissez-moi vous le dire. J'aimerais prêcher une fois là-dessus. C'est par la tête que le corps fonctionne et la tête est la parole. Est-ce vrai? La tête est la parole. Maintenant, comparez avec l'Église moderne. Pourquoi n'y voit-on pas de miracles? Pourquoi n'y voit-on pas la parole? Ne peut pas lui apporter la parole. La dénomination l'arrête. Assurément. Si par exemple, un bon et pieux homme de Dieu vient prêcher la parole de Dieu de son mieux, la dénomination dit, non, monsieur, faites-le sortir d'ici. Voyez-vous? Le corps ne peut pas bouger. Ainsi, le corps accomplit les œuvres que la tête lui commande de faire. Dites-moi où il a dit, organisez-vous. Dites-moi où la tête a dit que c'était permis qu'une femme coupe ses cheveux. Dites-le, ça n'y est pas. Dites-moi où la tête a dit, je fais ces œuvres, mais vous ne les ferez pas. Dites-le-moi. Mais la tête a dit ceci. Si vous voulez inscrire ce passage d'Écriture, je vais vous le donner. Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est son corps, voyez-vous. Maintenant, voyez-vous pourquoi j'ai fait si attention à la sorte de semence que j'ai plantée pour le corps? La pluie va bientôt tomber. Je veux dire, la véritable pluie. Elle doit avoir de la semence sur laquelle tomber. J'espère que je vivrai pour voir cela. Comprenez-vous maintenant? Ce sera la parole vivante comme c'était au commencement. La parole parlée de Dieu. Elle aura sa puissance, parce que c'est en lui, dans son corps, œuvrant selon sa manière à lui. Regardez aux promesses que Dieu a données à ce corps. Maintenant, nous arrivons à quelque chose. Nous arrivons aux mentions. Regardons ce qu'il a dit à ce corps. Je veux dire, né virginalement. Maintenant, nous en voyons les imitations. Voyons cela chaque jour. Mais venons-en à ce véritable corps et voyons ce qu'il a dit à ce sujet. Regardons. Très bien. Voici ce qu'il a promis. Croyez-vous que Jean 3, 16 est juste? Je dois lire ceci. C'est tout. Très bien. Que tous ceux qui croient Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, etc., disent Amen.
Amen.
Je vous incite à croire tout le reste. Je parle concernant le corps maintenant. Commençons avec Jean 20. Très bien. Prenez Jean 20, chapitre 20, et voyons. Jean, chapitre 20, et nous commencerons au verset 19. Jean 20, je crois que c'est ce que j'ai inscrit. Commençons avec le verset 19. Maintenant, écoutez attentivement. Je vous incite à croire cela. Oh, combien j'aime cela. Oh, si je pouvais simplement Je souhaiterais voir le Saint-Esprit planer par ici et dire, maintenant c'est moi. Écoutez, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et quand ses disciples, quand les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Oh, êtes-vous prêts? Comme le Père m'a envoyé, il est la parole, la semence parole, moi aussi, je vous envoie. Croyez-vous cela? N'arrêtez pas, il y en a encore plus. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Est-ce la vérité? À qui a-t-il dit cela? À la semence, la parole. Pourquoi? Ils pouvaient naître seulement par la parole. Voilà la raison. Croyez-vous cela? Maintenant, prenons Matthieu 16, une minute. Matthieu 16, 19. Lisons ceci pendant une minute. Très bien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous incite à le croire. Et si cela n'est pas la parole, Jean 3,16 n'est pas la parole. Pourquoi prendriez-vous l'un et pas l'autre? Toute la parole de Dieu est juste. Mais elle doit venir de sa vierge où rien ne s'y trouve si ce n'est la semence. Croyez-vous cela? Bon. Maintenant, observez ceci très attentivement. Je sais que la prostituée prétend cela. Et elle pardonne effectivement les péchés par leur puissance dénominationnelle. Mais regardez leurs enfants. Ils vont dans les dancing. Elles se coupent les cheveux, elles se fardent comme des clones. Les hommes vivent avec des femmes d'autres hommes. Ils flirtent sur la rue, ils ont des bains mixtes et tout le reste. Assurément, ils pardonnent. Ils pardonnent les péchés à leur manière. Mais leurs fruits montrent ce que c'est. Ce n'est pas juste pour eux. Non, monsieur. Que font-elles? Elles portent des shorts, coupent leurs cheveux, se maquillent. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits et au genre de semences qu'ils sont. C'est cela. Une semence dénominationnelle donne un pardon dénominationnel. C'est exactement cela. Dieu a dit que la parole produise selon son espèce. Et c'est ainsi. C'est vrai. Oh, frère, les Écritures sont vraies. Croyez-vous cela? Et le Saint-Esprit rend témoignage du don prédestiné que l'Église prétend avoir. Comment? En arrosant la parole et en ponctuant la parole d'un « Amen ». Lorsqu'elle dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ », « Amen ». Lorsqu'elle dit ces autres choses, « Amen ». C'est cela, « Amen à tout », voyez-vous, et il ponctue la parole. Et Dieu décida d'avance que le don de pardonner les péchés viendrait, mais qu'il serait donné au corps parole rempli de l'Esprit, parce que la parole seule peut pardonner les péchés, car la parole est Dieu. Combien les pharisiens avaient raison. J'ai mentionné ce matin que nous arrivions. Maintenant, j'ai pris mon temps. Mais les pharisiens dirent, cet homme prétend pardonner les péchés. Nous savons qu'il blasphème. Dieu seul peut pardonner les péchés. Et cet homme a pardonné des péchés, ne sachant pas que c'était là la parole. La parole pardonne les péchés, parce qu'elle est Dieu. Et lorsque vous n'êtes plus votre propre, Dieu savait d'avance, par sa préscience, qui recevrait ce don et l'utiliserait de la façon correcte. Ceux qui sont confirmés par la parole de Dieu et l'Esprit. Est-ce clair? Certains voudraient vous faire croire que cela vient par les études, la connaissance ou les diplômes. Si vous allez à l'école tant de temps, si vous devenez un évêque et étudiez pour être un pape, si vous devenez un cardinal ou quelque chose de ce genre, certains voudraient nous faire croire que cela vient de là, ou que c'est par l'imposition des mains. Mais ils sont en dehors de la parole. Romains 11, 29 dit, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu donne cela. Et aussi Jean 15, 16, si vous voulez l'inscrire. Écoutez attentivement maintenant. Combien grande était la différence entre Jésus et les dénominations de son temps? Il voulait lui faire remarquer, j'aimerais m'arrêter là un moment. Il voulait remonter dans le temps et dire, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Nous savons cela. Il connaissait l'histoire de Moïse, mais il ne connaissait pas le Dieu de Moïse. Parce qu'il se tint devant eux dans Jean 8 et leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis le buisson ardent. Il connaissait l'histoire de Moïse. C'est pareil aujourd'hui. Ils savent que Dieu, ils prétendent connaître la parole de Christ, mais ils ne connaissent pas le Dieu qui était en Christ. Un feu représenté. Qui peut être réchauffé par la représentation d'un feu? Une expérience de séminaire. Ils connaissaient Moïse, mais pas son Dieu. Jésus pouvait dire, et dit effectivement, amen. Écoutez ceci, frère. Frère, je me sens comme David et j'ai envie de faire tournoyer cette fronde. J'espère que je ne vous sens pas sacrilège, mes amis. Mais je me sens tout simplement bien. Je commence à me sentir bien maintenant. Jésus pouvait dire et dit effectivement à ses disciples, le Père qui m'a envoyé est en moi. Et comme il m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Si je ne fais pas les œuvres que mon Père a promis dans la parole, alors ne me croyez pas, car ce sont elles qui témoignent de moi. Alléluia! Oh, mes amis, où en êtes-vous? Ils dirent, oh, nous savons que Dieu l'a fait, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Jésus a dit la même chose. Nous savons que Dieu était avec Moïse. Le Dieu qui était avec moi est en moi. Mais si vous ne croyez pas, regardez ce qui est écrit à mon sujet. Regardez ce que les Écritures annoncent que je ferai. Et si je ne suis pas celui dont elles parlent, alors ne me croyez pas. Laissez-moi parler d'une façon qui ne soit pas sacrilège. Et cela concerne le message que je prêche. Si Dieu ne confirme pas que c'est la vérité, alors cela ne l'est pas. Mais si la parole confirme que je vous dis la vérité, alors croyez la parole. C'est elle qui témoigne si oui ou non j'ai dit la vérité. C'est elle qui le confirme. Elle témoigne en faveur du ministère qu'il m'a donné. Il a promis ceci dans les derniers jours. Le voici. Il a dit ce qu'il ferait. Le voici, nous y sommes maintenant. Vous voyez si oui ou non c'est la vérité. Que ce soit Dieu qui témoigne. Si les œuvres, les autres que je prêche ne témoignent pas que c'est la vérité, alors ce n'est pas la vérité. Mais si la parole en parle et qu'effectivement cela arrive, alors qu'allez-vous faire? Jésus a dit, je vous connais, vous croyez connaître Moïse. Vous connaissez peut-être l'histoire de Moïse, mais vous ne connaissez pas son Dieu, car j'étais avant Moïse. J'étais celui qui parle à Moïse. Je suis la parole. Ils ne pouvaient pas voir cela, parce qu'ils étaient de leur père, le diable. Leur dénomination ne voulait pas les laisser voir cela. Mais cela n'a pas empêché la parole d'avancer comme avant. Elle tomba sur certains, et de là sortit une épouse dans cette génération. Bon, quelle différence, la représentation d'un feu. Jésus avait l'habitude de dire, le Père qui m'envoyait avec moi et les œuvres que je fais en témoignent, car j'accomplis les mêmes œuvres que les Écritures ont annoncé que je ferai. Les Juifs connaissaient un Dieu historique. C'est la même chose maintenant. Oui, pourquoi connaissaient-ils un Dieu historique? c'est parce qu'ils avaient la semence historique. Pourquoi ne le reçurent-ils pas? Parce qu'ils étaient hybridés avec des dénominations. Jésus savait qu'il avait envoyé, car celui qu'il avait envoyé était en lui. Il n'y avait aucune dénomination attachée à lui. Amen. Dites-moi de quelle école il vient, dirent-ils. Où a-t-il reçu cette sagesse? D'où vient cette connaissance? Ne pouvait pas trouver l'école où il soit allé. Et pourtant, à 12 ans, il confondit les scribes et les pharisiens. Oh là là, il en est parlé. Pourquoi ne purent-ils pas le reprendre quand il était un jeune garçon? C'était la parole de Dieu. Il ne pouvait pas lui résister. Ce n'est pas étonnant que les gens aient été si étonnés de sa doctrine. L'avez-vous déjà lu? Marc 1, 22, si vous voulez l'inscrire. Les gens étaient étonnés de sa doctrine parce qu'il parlait comme quelqu'un ayant autorité. Il savait de quoi il parlait, voyez-vous? L'Église, maintenant, devrait avoir une double portion de l'Esprit. C'est vrai, de même qu'Élisée reçut une double portion de l'Esprit qui était sur Élie, lorsque son vêtement tomba sur lui, la même chose doit venir de Jésus-Christ. Maintenant vous dites, « Oh, frère Branham, vous parlez de son Église. » C'est vrai, c'est son corps. Ma femme n'est-elle pas une partie de mon corps? Votre femme n'est-elle pas une partie de votre corps? Chair de votre chair et eau de vos os. La sainte union, est-ce vrai? C'est la raison pour laquelle un chrétien ne devrait pas épouser une prostituée. Voyez-vous, ce n'est pas juste. Non, monsieur, parce que cela trouble toutes les choses de Dieu. Vous dites, « Oh, maintenant, frère Branham, attendez une minute. Vous parlez de l'Esprit de Christ étant sur la Bible dit qu'il y serait. Est-ce vrai? Esaïe 9,6 dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera un conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Il n'y aura pas de fin à son royaume. Et le gouvernement sera sur son, quoi? » C'est une partie de son corps. C'est son corps, n'est-ce pas? Ses épaules font une partie de son corps. Où se trouve le gouvernement de la terre? Dans son corps. Les sages jugeront la terre. Est-ce vrai? Paul dit, je vous défie d'aller en tribunal l'un à l'autre, sans que cela soit amené devant l'Église. C'est vrai. Les sages jugeront la terre. Sur quoi se trouvera le gouvernement? Sur les épaules. Son corps. Le gouvernement sur ses épaules, c'est une partie du corps. Qu'est-ce? Sa force terrestre. La force terrestre de Dieu est dans sa parole faite chair dans son corps ici sur la terre, la faisant accomplir. Moïse, écoutez, laissons-en de côté une partie. Les messagers de Dieu ont toujours été rejetés. Le croyez-vous? Moïse fut rejeté, est-ce vrai? Jésus fut rejeté. Et Luc dit dans Luc 10, 16, si vous voulez l'écrire, bon, rejeté, en Samuel 8, 7, le message de Dieu fut rejeté. Dieu avait un messager, un prophète appelé Samuel, le croyez-vous? Ils le rejetèrent, lui et son message, ils prirent le monde. Ceci est la loi de Dieu. Ceci va, je ne sais pas s'il faut dire ceci ou pas. C'est la loi de Dieu, est de recevoir un serviteur confirmé. Prenons une minute pour le prouver. Je vais prendre un passage des Écritures ici. Jean 13, 20. Voyons. Quelque chose d'écrit ici. La vallée d'esprit est... Oh oui, voilà. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Un serviteur confirmé. Oh frère, il y a là un millier de sermons. Voyez-vous, c'est vrai. Oh là là, c'est la loi de Dieu. Recevez-la. Samuel descendit vers eux et leur dit, « Je veux vous demander quelque chose. Vous avez déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé ?» Ils répondirent, « Non. Ai-je déjà prélevé des offrandes pour construire de grands bâtiments et faire de grandes choses et me glorifier ?» Non. Dieu a-t-il prouvé, répondit la parole que j'ai dite ? Oui. Eh bien, pourquoi ne m'écoutez-vous pas ? Jésus dit aux pharisiens, nous savons que tu es né dans la fornication. Il dit, lequel parmi vous peut me condamner de péché? Laissez-moi vous apporter la parole de Dieu et voir si vous la croyez. Si Dieu la confirme en vous, laissez-moi parler de moi-même. Si je parle de mon propre fond, je suis un menteur. Mais si je parle de Dieu et que Dieu parle au travers de moi par sa parole, alors c'est la vérité. Alors, qui croit la parole de Dieu? Moi ou vous? Ah, une pure réplique. Jésus dit, celui qui reçoit ceux que j'aurai envoyés me reçoit. Ce qu'il enverra. Et ceux qui me reçoivent, reçoivent celui qui m'a envoyé. Je souhaiterais que nous ayons le temps de nous attarder là-dessus.
Vous pouvez seulement servir Dieu. Vous pouvez seulement servir Dieu comme vous le faites et croire les serviteurs que Dieu envoie. Vous ne pouvez servir Dieu, voyez-vous, que dès le moment où les serviteurs de Dieu qui sont envoyés interprètent pour vous la parole par une inspiration divine. Croyez-vous tout cela? Voulez-vous l'inscrire à ces quelques passages de l'Écriture relatifs à cela? 1 Corinthiens 4:16. Paul a dit, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. » Aussi 11:11 et Luc 10:16. Regardez ce qu'il a dit, ce que Jésus a dit à cet endroit. Luc 10:16. Je crois que nous sommes tout prêts. Voyez une fois ce qu'il est écrit ici. Luc 10:16. Pendant qu'ils inspirent les autres. Il y a Corinthiens 4:11 et 11:1 et aussi Luc 10:16. Maintenant lisons. Je cherche Luc 10:16 pour le lire pendant que vous cherchez l'autre référence. Juste un moment. Très bien. Nous y sommes. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Cela prouve que Dieu prononce son message au travers de ses serviteurs. Il l'a toujours fait. Ainsi, c'est vrai. Maintenant, la puissance de l'Église qui croit. Christ détient toute la puissance dans le ciel et sur la terre. Le croyez-vous? Alors, qu'en est-il qui est en vous? Christ a-t-il toute la puissance? Matthieu 28, 18. Bien. Il est la parole semence dans son corps et lui en nous devient la parole semence en nous. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était a été déversé dans l'Église. C'est la puissance. Maintenant, observez. Souvenez-vous de la loi de Dieu concernant la reproduction. Maintenant, souvenez-vous-en. C'est selon son espèce, est-ce vrai? La semence de Christ, la parole, doit venir au travers de son corps. Oh, commencez-vous à être fatigué? Bon, une minute maintenant. Restons tranquilles et prions. Je vais faire entrer ceci profondément. Je veux ceci pénètre. La semence de Christ doit, D-O-I-T, doit venir au travers de son corps. Pas au travers d'une dénomination, mais au travers d'une semence de la parole née de nouveau. Maintenant, souvenez-vous-en. Qu'est-ce la semence de Christ? Comment vient ma semence? Au travers du corps. Comment vient la semence d'un pommier? Au travers du corps. La semence vient au travers du corps et l'Église est le corps de Christ. Est-ce vrai? L'Église biblique. Cette naissance le produit, lui, la nouvelle naissance, dans un corps. Son Église est sa parole, afin que les gens puissent voir la confirmation d'Hébreux 13:8. Jésus-Christ est même hier, aujourd'hui, éternellement. Croyez-vous cela? Ceux-ci ne sont pas des hybrides dénominationnels. Ce sont ceux qui sont dans l'orbite, attendant le compte à rebours. Vous savez ce que je veux dire. Ils sont sur le point de partir sur une fusée. Gloire! Ce ne sont pas les hybrides dénominationnels qui se tiennent ici. Ils ne sont pas, non monsieur. C'est la semence. Paul avait peur que les gens regardent au grand mot qu'il pourrait bien dire, une partie de son éducation. 1 Corinthiens 2, 1 à 8. Si vous voulez l'inscrire, 1 Corinthiens 2 à 8, Paul dit, je ne suis pas allé chez vous avec une supériorité de langage, en intellectuel, vous savez, pour que votre foi soit une chose de séminaire. Mais je suis allé vers vous de la simplicité, avec une démonstration du Saint-Esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée sur la parole de Dieu. Oui, monsieur. Bien que les églises dénominationnelles surpassent l'épouse en nombre à 1000 contre 1, croyez-vous cela? Croyez-vous que la Bible l'enseigne? Ésaïe 54:1, il l'a promis. Car le Voulez-vous que je le lise? Très bien, cherchons-le. Si vous voulez voir à quel endroit il a promis qu'il surpasserait en nombre. Allons dans Ésaïe 54, 53, 54, 1. Exulte, stérile, tu n'en faisais pas. Éclate en chant de triomphe et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas été au travail. Car les fils de la désolée sont plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit l'Éternel. Est-ce vrai? Les fils de la prostituée sont plus nombreux que ceux de la femme mariée. Assurément, ils surpassent en nombre de beaucoup. Bien qu'ils soient plus nombreux, ils n'ont pas de véritable père. Maintenant, les espèces dénominationnelles sont représentées dans Jude 8:11. C'est l'église séculaire. Des nuées sans eau, jetant les cubes, l'écume de leurs infamies. Les 10 pentecôtistes de ce groupe dénominationnel est représenté dans 2 Timothée 3, 1 à 8, ayant l'apparence de la piété. Leur semence produit leur espèce. Remarquez, l'eunuque. Oh, ici, nous allons entrer dans quelque chose de profond. Maintenant, observez cette église de semence, cette véritable église avec le véritable sperme. Remarquez, l'eunuque s'était trouvé avec tous les docteurs en théologie. Maintenant, souvenez-vous que Dieu n'a jamais confié, sa prédication et son évangile à un ange. Combien savent cela? Combien savent que Galates 1:8 dit, si un ange vient du ciel et qu'il prêche quelque chose d'autre que ce qu'ils avaient prêché, qu'il soit anathème. Ainsi l'ange est dans l'erreur, s'il diffère de la parole. Dieu est descendu en dessous des anges et l'a confié cela aux hommes, qui étaient des fils. Croyez-vous cela? Maintenant, observez bien. Il n'a jamais confié cela aux anges. Notez bien qu'il ne l'a jamais fait. Philippe était allé à Jérusalem à l'occasion de la Pentecôte pour adorer. Combien disent amen à cela? L'eunuque, lui, s'était trouvé avec les docteurs en théologie, les docteurs en droit et tout le reste. Mais pourquoi n'a-t-il rien reçu? Leur vient en étudiant la prophétie d'Isaïe. Bien que ce soit un ange qui ait dirigé Philippe vers lui, le germe de vie devait venir au travers du corps, Philippe. Oh, frère, maintenant nous sommes dans la ligne. D'où venait le germe? Au travers de l'ange? L'ange lui montra où aller. Un ange est un messager. Ici, c'est un fils. Philippe avait le germe. Le message, la parole. C'est ainsi qu'un enfant peut naître. Philippe lui imposa les mains. Philippe le baptisa au nom de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu vint. Assurément. Maintenant, le germe devait venir du corps. Quel corps? Du corps du Christ. C'est correct. Et Philippe était un membre du corps. Enfin, écoutez, la même chose arriva dans Actes 10, 48. Pierre était sur le toit de la maison. Un ange dirigea vers la maison de Corneille. Mais d'où va la parole? Du corps. Je me sens assez bien. J'ai envie de continuer le voyage. Un ange va lui dire, ne t'inquiète pas, ne regarde pas cela comme impur, va de l'avant, ne réfléchis pas. Et comme Pierre prononçait encore ses mots, par l'ange, par le cardinal, comme Pierre prononçait encore ses mots, alors quoi? Il était le corps. Il était la parole. La parole se saisit de cela. Oh, frère. Oh, là, là. L'ange dirigea. Mais la vie vient au travers du corps de Christ. C'est une vision qui dirigea Paul sur le chemin de Damas. Mais Ananias, voilà le germe, avait la parole. Ce prophète Ananias eut une vision. Une voix lui dit, va là-bas et impose-lui les mains. Il dit, frère Saul, le Seigneur t'est apparu sur la route en venant ici. Comment le savait-il? Il avait la parole. La parole du Seigneur vient au prophète. Il prophétisa, alla là-bas et dit, il m'a envoyé ici afin que je puisse t'imposer les mains et que tu sois guéri et afin que tu sois du Saint-Esprit. Reçois la vue. Et les écailles tombèrent de ses yeux. Il se leva et fut baptisé au nom de Jésus et il partit étudier. Un ange dirigea cela, c'est vrai, mais Paul avait le germe semence. Il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu, la semence, pour donner la vie éternelle. Est-ce déjà 2 heures? Je sais bien. Alors, je vais en lire une partie. Laisse-moi lire pendant 10 minutes. Êtes-vous d'accord? J'ai une bonne idée. Je pourrais parler plus longuement là-dessus, mais je ferais mieux d'aller de l'avant et ainsi, nous sortirons à l'heure. C'est seulement 5h-25. Je ne sais pas à quelle heure nous arriverons en Géorgie. J'aimerais pouvoir m'arrêter et développer un peu ceci. Mais je vais simplement le lire très lentement. Maintenant, écoutez attentivement. Voilà pourquoi j'ai pris la plume. C'est là une partie seulement. Voyez-vous, mes amis, pourquoi j'ai pris position comme je l'ai fait? Voyez-vous maintenant pourquoi j'ai lutté, pourquoi je me suis éloigné de ces dénominations pour obtenir une véritable église de Dieu? Voyez-vous pourquoi cela doit venir de la parole? Ça ne peut pas venir de la sagesse des hommes. Ça doit venir de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je crois à la parole comme elle est écrite. Je n'ajouterai ni ne reprocherai rien. Je la prêcherai ainsi et j'irai de l'avant. Maintenant, frère, vous tous sur la bande, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je prierai pour vous. Si je suis dans l'erreur, priez pour moi. Je vais en lire une partie maintenant. Je veux que vous écoutiez ceci très attentivement. Voilà où l'Esprit a dit, prends la plume. Je dois en retenir une partie. Bien. Maintenant, voici ce que j'essaye de vous faire comprendre. La loi de reproduction produit selon son espèce. Genèse 1:11. En ces derniers jours, la véritable épouse église arrive vers la pierre fêtière. Ce sera la super église, une super race, à mesure qu'il s'approche de la grande pierre fêtière. Ils seront tellement comme lui qu'ils seront à son image même, afin d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Les dénominations ne peuvent jamais produire ceci. Elles produiront leur credo et dogme mélangés avec la parole. Et cela fera un produit hybride. Le premier fils était une parole semence prononcée par Dieu. On lui donne une épouse. Je passe maintenant en revue l'esprit. Voyez-vous. Une épouse pour le produire. Elle tomba. Voyez-vous, c'est pour cela que l'épouse fut donnée, c'est pour produire à nouveau un autre fils de Dieu. Mais elle tomba en lui brisant. Le produire, mais elle tomba. Cela provoqua la mort. Le second fils, une parole semence prononcée par Dieu, reçut une épouse comme Adam. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle était tombée aussi. Elle fut comme la femme d'Adam, comme un être moralement libre de croire la parole de Dieu et vivre, ou en douter et mourir. Et c'est ce qu'elle fit. Alors, de ce petit groupe de la véritable semence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Et au travers d'eux, et par eux, s'accomplira tout ce qui a été promis. Eux ne connaissent pas de credo humain ou de dogme. La parole de la promesse qui était en lui était aussi en Marie. Dieu lui-même rendu manifeste. Lui-même agira par sa propre parole, afin d'accomplir tout ce qui était écrit à son sujet. Pareillement à ce qu'il fit lorsqu'il sortit d'un sein vierge, qui est du sein de l'esprit maintenant, la vierge le fera maintenant en acceptant sa parole. Qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Bien que cette parole vint d'un ange, c'était pourtant la parole écrite. Esaïe 9:6. Ils l'aimeront et ils auront sa puissance, car il est leur tête. Et ils sont ses sujets, sujets de sa tête. La direction de Christ lui appartient. Remarquez cette harmonie. Jésus ne faisait jamais rien avant d'avoir vu le Père ou avant que le Père le lui ait montré. Harmonie en Dieu et Christ, voyez-vous. Jean 5:19. C'est ainsi que fera l'épouse et lui montre sa parole de vie. Il lui montre. elle la reçoit, elle ne doute jamais d'elle. Rien ne peut lui faire de mal, même pas la mort, car si la semence est plantée, l'eau la fera lever. Amen. Maintenant, j'ai eu un grand alléluia. Voici le secret. La parole est dans l'épouse. Ainsi que la pensée de Christ, pour savoir ce qu'il veut que l'on fasse avec la parole, elle le fait en son nom. Elle a le « Ainsi dit le Seigneur ». Alors, elle est fécondée. Ainsi, le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle ait cru et soit prête. Ils font seulement sa volonté. Amen, je crois cela. Personne ne peut les persuader du contraire. Ils ont le « Ainsi dit le Seigneur », sinon, ils restent tranquilles. Alors, ils feront les œuvres de Christ, car c'est lui qui est en eux, continuant à accomplir sa parole, comme il l'a accompli en son temps. Lorsqu'il était ici, il n'a pas tout accompli, car ce n'était pas encore le moment. Maintenant, soyons comme Josué et Caleb. Maintenant, observez attentivement, cela aura un fondement spirituel. Maintenant, soyons comme Josué et Caleb, alors que la terre promise commence à être en vue. Le temps est proche. Pour recevoir, Josué, en hébreu, signifie « sauveur ». Et il représente le leader promis des derniers temps pour emmener l'Église de l'autre côté. Caleb représente le croyant véritable qui resta avec Josué. Dieu commença avec Israël comme vierge, avec sa parole, mais ils voulurent quelque chose de différent que ce qu'a fait l'Église des derniers jours. Remarquez que Dieu ne déplaça pas Israël avant que cela soit le temps choisi par lui. Maintenant, écoutez, cela aura une signification. Josué attendit ce moment-là. Oh, peu importait ce que les gens pouvaient dire. Dieu nous a donné le pays, la promesse. Partons. Maintenant, et prenons-le. Ils ont peut-être dit, Josué, tu as manqué ta mission. Tu es mis au rencard. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose? Tu avais coutume de connaître le ainsi dit le Seigneur à l'instant même. Ce qui était la volonté de Dieu. Mais ce prophète de Dieu, dans sa sagesse, connaissait la promesse de Dieu, mais il savait aussi attendre l'accomplissement de cette promesse. Des directives précises venant de Dieu pour son temps. Voyez-vous ces paroles, paraboles? Maintenant observez. Et quand le moment arriva, Dieu les lui donna à Josué, qui était resté avec lui par sa parole. Car il ne pouvait pas faire confiance aux autres. Il avait confiance en lui. Cela se répétera ainsi. Par exemple, le puissant prophète Moïse savait que Dieu l'utiliserait, car il avait prouvé à Moïse qu'il était son serviteur par sa naissance particulière. Au bon moment, la délivrance pour la semence d'Abraham était arrivée. Comprenez-vous cela? Moïse ne resta pas en Égypte pour discuter de points scripturaires avec eux. Il n'eut jamais d'histoire avec les prêtres. Mais il alla dans le désert et s'attendit au Seigneur jusqu'à ce que le peuple soit prêt à le recevoir. Il était venu leur témoigner, mais il ne l'avait pas reçu. Dieu appela son prophète dans le désert. Dieu avait témoigné, il l'avait choisi. Mais l'attente ne venait pas de Moïse, mais plutôt du peuple, pour qu'il puisse se préparer à recevoir Moïse. Moïse pensait que les enfants d'Israël comprendraient qu'il était envoyé. Je n'ai jamais écrit cela, c'est lui qui l'a fait. Et c'est ainsi maintenant. Élie, aussi, après que ce puissant prophète confirmé, auquel venait la parole de Dieu, eut terminé de prêcher son message au groupe américain moderne, qui, comme la première dame du pays, ont leurs cheveux coupés et le visage fardé, à l'exemple de Jézabel, Dieu confirma son prophète. Chaque fois qu'il prophétisa, c'était la vérité. Et Dieu dut l'appeler hors de son champ d'activité afin de tourmenter cette génération par de puissants fléaux, pour avoir rejeté le message de son prophète et la parole de Dieu qu'il leur avait envoyé. Dieu l'envoya dans le désert pour s'y cacher. Même pas un roi ne put l'en faire sortir. Et ceux qui essayèrent de le persuader de se détourner de la volonté de Dieu moururent pour l'avoir fait. Oh Dieu. Mais lorsque Dieu parla à son fidèle prophète par une vision, il sortit du désert avec le un sigle Seigneur. Que fit-il? Il retourna directement à la parole. Il apporta les 12 pierres et les mit ensemble. Jean-Baptiste, le fidèle précurseur de Christ, le prophète roi, aucune école de son père, aucune école de pharisiens, aucune dénomination ne put l'appeler hors du désert où Dieu l'avait envoyé avant qu'il ait entendu la voix de Dieu, l'agneau du Messie. Écoutez-vous toujours, vous qui êtes spirituel, que pourrais-je dire de plus ici? Je vais maintenant sauter quelque chose. Comme c'est différent aujourd'hui, beaucoup de soi-disant évangélistes prétendent qu'ils ont la réponse de Dieu pour les gens. Comme le fit Corée, qui nia et mit en doute l'autorité du prophète de Dieu oint et confirmé, Moïse, prétendant qu'il avait la réponse. C'était un plan pour se faire de l'argent, un veau d'or, comme beaucoup font aujourd'hui. De grands bâtiments, de grandes écoles, incubateurs de leurs propres semences. Et comme maintenant, les gens gobèrent cela, après avoir entendu la véritable parole de Dieu au travers d'un prophète oint qui était confirmé. Ils adoptèrent le mensonge de Corée. Le prophète confirmé par Dieu, et Dieu savait, et il savait que Dieu leur avait dit, Israël savait que Dieu leur avait dit distinctement qu'il confirmerait ses prophètes par sa parole. Corée n'était pas un prophète scripturaire, mais il avait terriblement bonne façon devant le peuple. C'est la même chose maintenant. Aujourd'hui, c'est du sang sur vos mains, des boules de feu sur la plateforme, de l'huile dans vos doigts, et la même chose produit des femmes prédicateurs, des cheveux courts, du maquillage. Qu'avez-vous? Vous ne pensiez pas que les gens adopteraient cela, mais ils le firent pour copier, et ils font la même chose maintenant en s'éloignant de la véritable parole pour choisir les dénominations. Les chocs, cela montre quelle espèce de semence il y a dans eux. Mais Dieu t'a loué, tout Israël ne s'éprit pas de Corée. Certains restèrent avec Moïse, le prophète oint qui avait la parole de Dieu. C'est pareil aujourd'hui. Avec beaucoup des élus de Dieu. Il reste avec sa parole et son esprit. Souvenez-vous que livrée, la mauvaise herbe doit être rassemblée et liée en gerbe. Est-ce vrai? Cette chose est arrivée. L'organisation des églises apostates est liée plus fortement qu'elle ne l'a jamais été. Ils sont liés ensemble dans la fédération des églises prêts pour le feu du jugement de Dieu. J'ai jamais écrit ceci. J'ai l'impression que c'est lui qui l'a fait. Les pentecôtistes, de même que tous, sont pleins de soi-disant. Le blé parole sera rassemblé un jour après son départ pour aller vers le maître. Dieu a promis, faites attention, Dieu a promis Malachie 4 pour ses derniers jours. Malachie 4 ne s'est pas encore accompli, mais il doit s'accomplir car c'est une parole de Dieu fécondée qui était prononcée par Malachie le prophète. Jésus s'y référa. Cela doit arriver juste avant la seconde venue de Christ. Écoutez attentivement maintenant. Toutes les écritures qui ne se sont pas accomplies doivent l'être avant ce moment-là. La Bible doit être achevée. La dispensation des gentils doit se finir avec l'âge de l'Église. Lorsque ce messager arrivera, il plantera bien sûr la semence de la Bible entière, depuis le serpent jusqu'au messager. Dans la première pluie, il sera alors rejeté par les gens des dernières nations comme le furent ses ancêtres. Jean est lui, comme l'a déclaré notre Seigneur. Comme Élie le fut du temps d'Achab. Cela arrivera ici, dans notre pays, étant donné que ce pays est un type d'Israël. Lisez ou écoutez la religion de Jézabel. De même que nos pères adoraient comme ils l'entendaient et qu'ils vinrent dans ce pays, en expulsèrent les indigènes et l'offrirent, ainsi fit Israël. Après être sorti d'Égypte, nous avons eu des hommes pieux comme Washington, Lincoln, ils eurent de grands hommes pieux comme David, etc. Ensuite, ils eurent un Achab sur le trône, avec une Jézabel derrière lui pour le diriger. Nous avons la même chose. Ainsi, c'est à ce moment-là, dans notre pays, que cette personne apparaîtra. Car c'est dans l'Écriture, et c'est ainsi dit le Seigneur. Ensuite, dans la dernière pluie, il y aura un étalement de son jeu, comme au Mont Carmel. La Bible s'accomplit à la lettre. Jean-Baptiste, le messager devant sa face, dans Malachie 3, planta une première pluie, et fut rejeté par les églises, les dénominations, les pharisiens, les sadducéens de son temps. Jésus vint et eut l'étalement de son jeu au mont de la transfiguration. Ce précurseur des derniers jours sèmera pour la première pluie. Jésus mettra en lumière le jeu des dénominations, les credos et sa parole. Quand il viendra, ce sera l'étalement de son jeu, l'enlèvement de son épouse. Le premier, le mont Carmel. Le second, le mont de la transfiguration. Le troisième sera le mont Sion. Voir la conduite d'Élie, la conduite de Moïse, la conduite de Jean, qui quittèrent leur champ d'activité. Beaucoup de personnes ne les comprirent pas. C'était parce que eux et leur message étaient rejetés. La semence avait été plantée. Le jugement va ensuite. Et ils furent pour les gens un signe venant de Dieu, montrant que le jugement était proche. Le plantage était terminé. Je crois qu'un jour, la véritable épouse de Christ sera obligée d'arrêter de prêcher la parole de Dieu. La Bible prophétise cela dans Apocalypse 13, 16, si vous voulez l'inscrire. Les dénominations la forceront d'arrêter ou de prendre sa main. C'est là que l'agneau prendra son épouse et jugera la prostituée pour ceci. Souvenez-vous que Moïse, qui naquit en vue de cette mission, dut s'attendre à Dieu pour recevoir un don extraordinaire lui permettant de l'accomplir et de retourner là-bas et attendre. Et au temps choisi par Dieu, un certain pharaon devait être sur le trône. Et les gens devaient désirer le pain de vie avant que Dieu ne le renvoie. Maintenant, l'existence en ces derniers jours de milliers de faiseurs de signes a créé une génération de chercheurs de signes qui ne connaissent rien au véritable mouvement de Dieu dans sa parole. Comme je l'ai déjà dit, donnez-leur du sang, de l'huile et des démonstrations charnelles sur la plateforme et ils l'appuieront. Que ce soit la parole de Dieu ou pas, que ce soit scripturaire ou pas, Jésus nous a averti que de telles choses arriveraient au temps de la fin. Comme je l'ai dit dans Matthieu 24, les deux esprits qui se ressemblent beaucoup séduiront même les élus si c'était possible. Comment? Pouvez-vous les reconnaître? Faites-leur subir le test de la parole. Comment pouvez-vous savoir cela? Prononcez la parole. Voyez ce qu'ils disent à ce sujet. Ils ne croient pas la parole et n'ont pas le germe de la semence en eux. Ils sont du malin et vous séduisent. De même que la première épouse fut séduite et que la deuxième épouse le fut aussi, ils séduisent la troisième épouse en hybridant la parole ou en essayant de le faire. Dieu n'a jamais placé les signes avant sa parole. Amen. C'est une riposte saisante. Dieu n'a jamais placé les signes avant sa parole. Ils ont été ajoutés pour servir de preuve à la parole. Mais la parole vient en premier. Pour prouver cela, Élie dit à la femme, « Prépare-moi un petit gâteau premièrement. Ensuite, regardez le miracle qui se produisit. Venez premièrement la parole et ensuite observez le miracle. La seconde parole est ce qui reçoit de l'énergie du Saint-Esprit. Maintenant, un messager envoyé de Dieu peut-il croire seulement une partie des Écritures et pas toute la parole? En y est une partie? Le véritable prophète de Dieu proclamera en ses derniers jours la parole. Les dénominations le haïront. Il ne cherchera pas à leur donner des coups. Il sera comme à la première venue de Christ. Vous, génération de vipères. Mais les prédestinés entendront et se prépareront pour le compte à rebours. La semence royale de la foi d'Abraham se cramponnera comme lui à la parole de Dieu malgré tout, car elle est prédestinée. Le messager de Malachie 4 apparaîtra au moment choisi par Dieu. Nous l'attendons tous. Nous croyons qu'il viendra. Cela est en accord avec sa parole. Ce sera dans les derniers jours. Il est temps maintenant de le voir. Il sera vraiment consacré à la parole comme ils l'ont toujours été. Il sera signalé par la parole de Dieu et confirmé. Dieu confirmera que ce qu'il prêche est la vérité, comme il le fit pour Élie. Car c'est Élie qui vient pour préparer l'enlèvement du mont Sion. Jésus a dit que dans les derniers jours, ce serait comme au temps de Lot. Sa prédication sera donnée par l'Esprit et dans la ligne parfaite de la parole de Dieu. Parce que tant de choses ont été déclarées être la vérité, beaucoup comprendront mal ce véritable messager. J'écris ici P-R-O-P-H-E-T-I-E. Prophétie. Parce que tant de choses ont été appelées la vérité par des falsificateurs, beaucoup de véritables prédicateurs comprendront mal ce messager. Comme les prophéties des derniers temps se répéteront, je crois que de même que le premier précurseur sortit du désert et cria, « Voici l'agneau de Dieu !» Ainsi, le deuxième précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les regards des gens vers une épouse née de la parole. L'épouse de Christ sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus. Le cri, voici l'agneau de Dieu, viendra sur ses lèvres. Ô Dieu, aide-nous à être prêts pour ce proche événement. Maintenant, je ferai mieux de rester là. Croyez-vous? Pourquoi cela est-il arrivé? Maintenant, comprenez-vous mieux? C'est la parole, mes amis. Ceci a duré près de 6 heures, pas loin. 5h30 ou 6 heures. Il y a encore beaucoup à dire, mais assurément, le Saint-Esprit, jusqu'à maintenant, a fait pénétrer cela si profondément en vous que vous savez de quoi je parle. Nous sommes à la fin des temps. Les semences sont maintenant semées. La dernière pluie est sur le point de venir. Souvenez-vous qu'il y aura bientôt un tel rassemblement dénominationnel que cela sera terrible. Ils s'uniront dans cette fédération des églises et alors cette sorte d'église sera empêchée d'agir à leur connaissance. C'est à ce moment-là que Jésus apparaîtra et qu'il montrera qui épouse et qui ne l'est pas. Et souvenez-vous, amis chrétiens, que je suis un homme, je peux faire des fautes, mais Dieu étant Dieu ne peut pas faire de fautes. Toutes les paroles qui ont été écrites doivent s'accomplir, Jésus l'a dit. Ainsi, il y a des choses ici, les Écritures, qui doivent s'accomplir, et ce boycottage à venir est l'une d'elles. Mais avant que ce boycottage vienne de la marque de la bête, une semence doit être semée pour Dieu, afin d'en faire sortir une église. Comprenez-vous maintenant? Une semence doit être semée. Une semence dénominationnelle est pour faire une forme ou une image de la bête, l'église de Rome. Elle doit y avoir une véritable épouse. Et nous comprenons que la soi-disant épouse est rejetée. L'épouse d'Adam a refusé de produire la vie. Elle a produit la mort. Nous sommes son produit, notre corps. Nous mourrons tous. Regardez-nous, vous pouvez le voir. L'épouse de Jéhovah mourut. Il la répudia et prit parmi les nations un peuple qui porte son nom. Est-ce vrai? Son nom comme une femme prend le nom d'un homme, l'épouse. Maintenant, qu'a-t-elle fait? Les mêmes choses qu'elles firent les autres fois. Elles se donnèrent un nom. Elles se polluèrent. Comme dans chaque génération, chaque réveil amène un prophète de Dieu. Un prophète est un prédicateur, un véritable prédicateur qui reste avec la parole. Et ils produisent un réveil qui rassemble l'élu de cette génération. Ensuite, elle devient une semence. Dieu ne l'utilisera plus jamais. Je demande à n'importe quel théologien ou historien de me dire si une dénomination s'est déjà relevée. Elle ne l'a jamais fait. Elle mourut lorsqu'elle devint une dénomination. Et c'est là qu'elle se trouve. Je pense à Dwight Moody, la Bible de Moody. Je pense aux méthodistes, pentecôtistes, presbytériens, luthériens, nazaréens, pèlerins de la sainteté. Des hommes pieux apparurent. Buddy Robinson et George Whitefield et tous ces grands hommes pieux qui prêchèrent l'évangile. Cette génération reçut la semence qui lui était destinée. Pour le blé, c'était soit la tige, la feuille, l'aigrette ou le grain. Quoi cela fut, ce prédicateur rapporta la parole de ce jour-là. L'appel retentit aux quatre coins de la terre et fit sortir les élus de cette génération. C'est avec les élus de qui a été construite la maison du Dieu vivant. Maintenant, ce ministère ici doit être affiné pour entrer en place jusqu'à ce que les œuvres elles-mêmes que fit Jésus, parce que lorsqu'il viendra la terre fêtière, saisira directement cela, parce qu'ils ne vont pas, il y aura un enlèvement, elles seront prises avec, et le reste du corps viendra avec eux. Elle partira au ciel. Pas une dénomination, mes amis, une église de la parole de Dieu. Le croyez-vous? voici quelques mouchoirs. Maintenant, je parle sans savoir où je vais. Je cherche comme vous la volonté de Dieu. Je souhaiterais pouvoir rester dans ce tabernacle. Mais je ne peux pas le faire. Il y en a des milliers. J'entends le cri. Un esprit impur les déchire. Je ne peux presque pas dormir. J'entends des petits-enfants pleurer et je vois des mères qui poussent leurs enfants au travers de la ligne de prière. Je vois une mère qui évente un bébé et tiendra sur lui pour le protéger de la pluie dans la cour. Mon cœur saigne pour eux. Lorsque j'ai construit ce tabernacle, le jour où j'ai posé là-bas la pierre angulaire, je me souviens de la vision que j'ai eue ce matin-là. Je l'ai écrite et placée dans la pierre angulaire. La voici. Ceci n'est pas ton tabernacle, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. J'aime cela. J'aime les enfants de Dieu qui sont partout. Je ne sais pas où il va me guider. Je ne sais pas. J'attends. J'ai attendu une année. Il se peut que j'attende 2 ans. Il se peut que j'attende 3 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel sera le prochain déplacement. J'attends cela. Mais je pense, en accord avec l'Écriture, que la parole était semée. La chose suivante est la venue de l'Esprit. Billy Graham prêchera peut-être partout. Oral Robert, les hommes pieux prêcheront peut-être partout. Le Seigneur m'enverra peut-être semer des semences à un autre endroit. Mais je crois que notre nation est entièrement ensemencée. Et je crois qu'elle est maintenant prête pour la moisson. Lorsque l'Esprit tombera et que quelque chose commencera à bouger parmi les gens, ces dénominations se mettront ensemble aussi certainement que je suis maintenant en chair. L'Église de Dieu sera délogée et ils finiront pour boycotter tous ceux qui ne leur appartiennent pas. Rome dirigera le monde. Juste une heure. Elle dirigera peu de temps. Pas le communisme, le romanisme dirigera le monde avec la coopération du protestantisme dans une église à forme dénominationnelle, chose que Dieu a rejetée. C'est à ma connaissance la parole de Dieu. Je vous aime, je vous apprécie. Peut-être serai-je de retour dimanche dans une semaine. Je descends maintenant en Floride, Dieu voulant, et je serai en Géorgie demain soir. J'ai quelques petites réunions dispersées à plusieurs endroits. Si le Seigneur me conduit ainsi, je n'en livre plein que frère Robertson ou Bordeaux m'a envoyé l'autre jour. Je crois qu'il y a des endroits où 30 à 40 églises désirent coopérer, mais l'Esprit semble me retenir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ainsi, priez pour moi, je prierai pour vous. Puissons-nous tous ensemble tenir. Puisse Dieu nous aider. Puisse-t-il y avoir personne parmi vous ici pour faillir et monter ce temps glorieux qui va venir. J'ai été accusé de beaucoup de choses, mes amis, et j'en suis responsable pour la plupart. Je suis négligent, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. C'est un doigt maculé et m'obliger à me battre. Je ne sais pas. C'est ma nature. J'ai fait les choses que je n'aurais pas dû faire. Cela, pas volontairement, mais j'ai été pris là-dedans. Et c'est ce qui me fait si peur en voyant ce jour, le jour dans lequel nous vivons. Et vous voyez maintenant ce que je crois. Je veux recevoir quelque chose de Dieu, si c'est possible, avant de bouger. Voyez-vous? Parce que je ne veux pas lui faire défaut. Je veux être partout avec lui. Et je désire que vous priez pour moi. Souvenez-vous que je vous ai dit la vérité. Maintenant, je vous remercie d'être resté assis ici durant toute cette journée, depuis tôt ce matin. Beaucoup d'entre vous étaient debout le long des parois et dans les halls, avec des crampes dans les pieds et dans les jambes. Ou bien vous étiez dans votre voiture, vos batteries sont presque à plat à force d'écouter. Et voilà, tout est sur bande. Les frères l'ont enregistré et vous pourrez l'obtenir. Et si vous vous la procurez, prenez-la à la maison et étudiez-la très attentivement et sagement et voyez ce que le Seigneur vous révélera. L'aimez-vous? Où est-elle dit? Juste avant que nous prions pour ces mouchoirs et pour les gens, je désire prier pour chacun d'entre vous. Maintenant, je désire chanter ce chant. Et ensuite...